Wow. 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 4 minutes 15. J'aime bien quand il y a des guitares comme ça et une dame qui chante fort derrière. Comment ça va, vous? J'espère que vous allez aussi fort que la dame qui chantait à l'instant. Ça va? Ah, double stream, double dose aujourd'hui. On est des fous. Des malades. Bon, j'ai pas pu streamer hier, j'étais à Montélimar, capitale du nougat, et dans les livres d'histoire, bientôt capitale régionale, d'où j'ai lancé ma campagne présidentielle pour 2027, ceci est une autre histoire. Comment ça va, vous? Donc, double stream aujourd'hui, on donne tout ce matin, un petit 3 heures de stream ce matin sur l'actualité, sur les journaux, sur la revue de presse, régalade. En plus, j'ai 2 jours de journaux à vous lire, enfin 2 jours d'actu, 2 jours d'articles sympas, puisque hier, j'ai pas pu streamer, j'étais à Montélimar pour... une masterclass avec, waouh, genre 1 millier, ouais, de collégiens, de lycéens de la région sur comment, il y avait un petit jeu de mots dans le titre, comment s'informer et comment informer aujourd'hui, vachement intéressant, les médias traditionnels, les nouveaux médias et tout. Des jeunes incroyables, questions super pertinentes, je me suis régalé. C'était dans le cadre d'un festival de cinéma en plus qui fêtait sa 12e édition à Montélimar et c'était vraiment super cool. Donc j'ai pas pu streamer hier, donc aujourd'hui double dose avec notamment des articles qui couvrent 2 jours d'actualité puisqu'il y avait des trucs sympas dans la presse aujourd'hui, hier pardon, que j'ai lu mais dont j'ai pas pu vous parler. Donc ça va être deux fois plus intense ce matin et puis on se retrouve pour l'hebdo Étienne en plus ce soir et dimanche soir aussi pour ça me plaît. Avec le bouseux, on aura l'occasion d'en reparler pour faire vroom vroom, on va se régaler. Je vous lis un petit peu, je vois que c'est quelqu'un qui s'énerve tout le chat de bon matin, non, 8h58, on ne s'énerve pas. Julien, merci pour le 25e mois d'abonnement. Idriss, merci pour le 19e mois d'abonnement. Pépin Camille, 26 mois d'abonnement, on est au maximum. Merci beaucoup Camille. Le Taulier, merci pour le 8e mois d'abonnement. Nuno 124, merci pour le 11e mois d'abonnement. Nuno qui pose une bonne question. Est-ce ici le stream du futur président du monde? Que nenni. Puisque mon projet secret est donc de devenir président de la République française en 2027 grâce à vous. Campagne numérique, campagne sur les réseaux sociaux, je vous le rappelle. Mais pas président du monde, en tout cas pas en 2027. Lilou Rennes, merci pour le 6e mois d'abonnement. Zokaga, merci pour le Prime. Cabigon 007, merci pour le Prime. Tassopac, merci pour le 11e mois d'abonnement. No Rage, à l'instant, merci pour le 9e mois d'abonnement. Alors, des articles sur le cambriolage d'un des plus anciens matinées de France, Bruno Guillon, El Giganto. Oui, le Parisien surtout. Hier avait un article vraiment complet sur... C'est plus qu'un cambriolage, c'est le... Le homejacking, hein, réveillé en pleine nuit avec son épouse, pistolet sur la tempe de Bruno Guillon, serflex au poignet de son épouse et de son fils de 14 ans, un truc hyper violent, hyper traumatisant. Et Bruno qui a publié une vidéo étonnante dès le lendemain où il est retourné à la matinale de Fun Radio, je dis pas de bêtises, c'est ça? Et où il a fait une masterclass, Fun Radio, hein, c'est ça. Qu'on va écouter d'ailleurs, parce qu'il est quand même assez étonnant ce garçon. Je le savais déjà, hein, on se croise parfois en coulisses et il est pas une interview, je vais te remercier, merci beaucoup pour le soutien, c'est super gentil. C'est un garçon étonnant vraiment, à l'antenne, mais aussi dans la vie. D'ailleurs, on doit se retrouver samedi midi pour un événement radio sur Internet au profit des Restos du Cœur. Bruno, le connaissant, je pense qu'il ne va pas annuler. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Point of view, merci pour les 5 abonnements offerts à la commune, quoi. merci beaucoup du soutien. Bobine Bookin, merci pour l'abonnement offert à la commu. Koraki, merci pour le cinquième abonnement. Vous êtes formidable. Ouais, c'est un super boulot. Un peu accro au boulot, ouais. C'est pas bien, les gens qui sont accro au boulot. Faut pas. Non, un mec formidable, formidable. En tout cas, vous lui envoyez plein de force, ça c'est cool, il le mérite. Je voulais un petit peu. Donc, ouais, Bruno, on va en parler un petit peu. Moi, je pense que vous avez les infos. Un truc que j'ai vérifié, c'est que j'ai lu rapidement sur X Twitter que les cambrioleurs et agresseurs présumés auraient été interpellés. Mais je ne suis pas allé vérifier ça, donc évidemment, on va vérifier parce qu'il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Bon, ça va vous? Double stream aujourd'hui, hein? Double stream, puisque ce matin, hop, la matinée Étienne, avec deux jours d'articles, on va se régaler. Et puis, je vous rappelle, la line-up, l'affiche, mesdames et messieurs, voici Google. Voici X slash Twitter, assez fier de mon tweet pour annoncer le stream de ce matin. Bobine Bookin, tu régales, je reviens à toi dans un instant. Mon tweet de ce matin, mesdames, messieurs, on dit plus mesdemoiselles, je crois. Ce vendredi, je me mets un peu dans les habits présidentiels, hein, ça y est, ça commence. Je vous promets solennellement la matinée Étienne, là maintenant, l'hebdo Étienne, là ce soir 20h. Et un tournage secret avec la crème de la crème des streamers slash youtubeurs français. Oui, mesdames et messieurs. Vive la France! Vive la République! Vive moi! Voilà. Ouais, j'ai un petit tournage secret. Donc, évidemment, je vais tout vous dire. Non, bien sûr, ben, c'est secret. Donc, il y a un tournage secret, là, à la mi-journée, avec... Les meilleurs sont là! Un truc de fou. Je ne comprends pas pourquoi on m'a invité. Mais, en tout cas, je suis là. Peut-être pour augmenter la moyenne d'âge, je sais pas. Voilà. Bon, ça, j'ai pas le droit d'en parler. Et ça, c'est une photo qui a été prise hier à Montélimar. Voilà. Non, ça va, je serai prêt. Gré m'a dit qu'il tournait des trucs pour Zen aujourd'hui, me dit Floaters. Ah, vous essayez de me tirer les vers du nez, je n'ai pas de vers dans le nez. J'ai une hygiène de vie parfaite. Le live de Witcher approche. On est en train de s'équiper, R&D's. Qui est l'invité de dimanche? C'est Le Bouzeux, on va en parler. F1 2023. Vous voulez savoir, hein? Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas, c'est un tournage secret. Sachez qu'il y a... Il y a du matos. Il y a du matos. Ouais, F1 23, F1 2023. Enfin, ça va, c'est le F1 2023. Hein, ça va. Ouais. Non, j'ai rien dans le nez. Rien du tout. Voilà, donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. L'hebdo Étienne, on vient de voir Le Bouzeux rapidement. Tiens, regardez ça, c'était le festival où j'étais hier à Montélimar. L'affiche officielle, elle est là. Voilà. Super festival qui apporte le cinéma aux plus jeunes, en fait, dont l'intention est de faire découvrir le beau, le grand cinéma aux collégiens, aux lycéens. C'est un super festival créé par des passionnés de cinéma, des réalisateurs, des acteurs, des actrices, et vraiment c'est topissime ce qu'ils font. Voilà, j'espère que je pourrai aller leur rendre visite l'année prochaine. Donc l'hebdo Étienne, ça va c'est pas du tout Belmondo. Ah non, les gens certains ont pensé reconnaître Belmondo jeune, le beau gosse là, pas du tout. C'est une photo de moi en fait à 20 ans, ça. Ah non. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit air. Ouais. Peut-être, ouais, vaguement, ouais, Belmondo, ouais. Non. Ouais, si vous regardez bien la lumière dans les cheveux, si vous regardez la façon dont la lumière joue avec les cheveux de cet homme, dont la lumière, je dirais, caresse même ce visage, ça c'est moi. Voilà, ça n'est pas Bébel. Non, mais c'est pas un petit air, il y a un petit air. Donc voilà, et puis donc l'hebdo, alors pardon pour la line-up, quoi. Pardon pour la line-up. Let's go ce soir. Je vous régale ou quoi? Arnaud de sa mère, le retour. Arnaud a fait sa première dans l'hebdo Étienne il y a genre 3 semaines. Vous l'avez kiffé? Vous l'avez dit waouh, formidable. On dit plus kiffé depuis 1927, mais je vois, je le dis encore. Vous l'avez aimé? Il est de retour. Valérie, vous l'aimez? Valérie, elle est formidable. Elle parle, elle dit les termes, Valérie, elle les cache. Voilà. Elle s'enflamme, j'adore. Thomas Hill, super journaliste de France Télévisions, bon, je l'ai connu à France Télévisions, qui a Europe 1 maintenant, qui m'a invité d'ailleurs. Pardon, dans. Attendez, faut que je me bouche. Faut que je me bouche de l'intérieur. Voilà. Thomas Hill, journaliste à Europe 1, et producteur aussi, ouais. Et donc, qui sera avec nous pour la première fois, son premier stream. Vous connaissez le Defend Intelligence? Voilà. Donc, c'est un streamer, c'est un ingénieur spécialisé en IA, et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui sont tombées ces derniers jours sur les intelligences artificielles. Vous allez me boucher, je parle avec le dé, bougez pas. Mec super, mec super. Defend Intelligence. Voilà. Non, mais non, faut pas couper le micro, non, pas du tout, au contraire. C'est la vie, c'est pas la télé ici, c'est la vraie vie. Vous le connaissez ou pas? Defend Intelligence, donc ingénieur spécialisé IA, streamer, voilà, qui s'est fait remarquer récemment par les IA. Du président Macron, ouais, youtubeur aussi, du général de Gaulle, voilà, qui il faisait dialoguer ses IA avec les tiens, c'est drôle ce clip là, même je le vois, avec les viewers, et il s'est même pris un petit ban. Ouais, un ban def. Un ban définitif de la part de Twitch parce que l'IA de Macron, interrogé par un viewer, avait dit une petite dinguerie, voilà, enfin, comprise comme telle par la modération de Twitch, et en fait il a bien cru perdre sa chaîne. Et puis il y a dû y avoir des interventions, il y a eu peut-être des gens qui ont parlé à Twitch France de cette situation. Il a récupéré sa chaîne, voilà, donc il sera avec nous, et ça tombe bien parce que Yanis, de son vrai prénom, il est au cœur de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'actualités et intéressantes sur l'IA. Qu'est-ce que c'est que ça? On me dit que c'est un modo qui vient de m'envoyer ça, donc j'ai confiance sur un petit clip de justement l'IA de Macron intitulé « Balle perdue pour Samuel Etienne ». Bien sûr, on a envie d'en savoir un peu plus.
Samuel Etienne, pas le champion des questions faciles et des réponses prévisibles. Il est aussi passionnant qu'une partie de Scrabble avec ma grand-mère. Next.
Pardon ? Alors, j'ai pas dû bien comprendre, entendre. On va écouter pour être sûr. Ouais.
Samuel Etienne, ah, le champion des questions faciles et des réponses prévisibles. Il est aussi passionnant qu'une partie de Scrabble avec ma grand-mère. Next.
Ok, d'accord. Ok. Donc, qui? Ok. Mais je t'emmerde en fait. C'est fou ça. Qui dit ça? Est-ce que c'est le président de la République? Non, c'est pas le président de la République. Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est Defend Intelligence, le streamer? Attendez, j'ai juste un texto à envoyer. Je sais que j'aime bien dicter des textos. Ouais. C'est parce que je pensais à un truc. Bonjour Yanis, c'est Samuel, point. Pardon, énorme méprise, j'avais oublié que j'avais déjà calé un quatrième invité ce soir, je suis au regret donc d'annuler ta venue dans l'émission de ce vendredi 29 septembre, point, mais je reviendrai bien sûr vers toi prochainement avec d'autres dates, point, à très vite, point. Bonne fin de semaine, point d'exclamation. Sérieux quoi. Voilà, ok, merci, super. De plaisir. J'adore, on se régale. Suicide, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement, c'est adorable. Pluxis, on aura un bébé. Energix, merci pour le 26e mois d'abonnement, c'est pas moi qui dis, hein, c'est sa blague à lui. Ou à elle. Ninou105, merci pour le 12e mois d'abonnement. Bobine Booking Régal a offert deux abonnements à la commu. Point of View, 3. 5 abonnements à la commu. Bobine Booking qui a offert un autre abonnement à la commu. Vous êtes Formidable. Merci du soutien, c'est adorable. C'est adorable. Donc on va se... non, en vrai, franchement, je trouve que c'est une très belle affiche ce soir. Et j'espère que vous serez présents. On va parler ce soir dans l'Hebdo Étienne des mesures annoncées là, mercredi, par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire. Parce qu'on en parle régulièrement ici et il y a du neuf. Voilà. Donc je vais en parler avec mes invités. On va parler. Quel est le deuxième gros thème? Bougez pas. Ah bah si, l'IA. Plein d'annonces cette semaine sur l'intelligence artificielle. Et donc du coup, je me suis dit qu'on allait profiter de la présence de Defun Intelligence pour parler d'intelligence artificielle. Bon, en tout cas, si son invitation est maintenue. Et puis un troisième thème. Alors j'avais d'autres thèmes, mais après je demande aussi l'avis de mes invités. Et puis certains n'étaient pas inspirés par quelques-uns des thèmes que j'ai proposés. Du coup, un truc un peu sympa sur ce fameux dossier qui est paru dans Le Monde cette semaine sur le sport, l'activité physique essentielle à la santé pour rester en forme, pour parfois se guérir, accélérer une guérison. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui clairement font le parallèle entre activité physique et sport et bonne santé, et l'inverse, c'est l'absence d'activité physique et une santé fragilisée. Voilà, on le sait, on s'en doute, sauf que là c'est vraiment étudié, quantifié scientifiquement. Et du coup, on en parlera ce soir. J'en profiterai pour demander le rapport au sport de nos invités. Voilà. Et puis quatre cartes blanches, puisque chacun de nos invités vont venir avec une carte blanche, quelque chose dans l'actualité qu'ils veulent mettre en avant. Ça met du rythme, c'est sympa. Arnaud, par exemple, veut nous parler des supporters, des comportements de supporters dans le football français ces derniers temps. Voilà, ça va chauffer à mon avis. Defun Intelligence nous parlera d'IA encore, et j'attends encore la carte blanche de Valérie Damido et de Thomas Hill. L'article est dans Le Monde de cette semaine, Thomas typique, mais ne t'inquiète pas, puisque de toute façon, cet article, je vais vous le lire ce matin. Je tenais absolument à vous lire cet article. Poum, merci pour le 24e mois d'abonnement. Ça nous fait 2 ans, c'est énorme. Et Point of View, merci encore pour l'abonnement offert à la commu. Et puis, et ça n'est pas tout, puisque évidemment, on a également, le samplet. J'ai tellement envie de revoir cette vidéo. Le samplet de dimanche. Est-ce que c'est pas beau, ça? Notre ami Le Bouzeux, qui va quitter sa Bretagne, voilà, qui va venir avec un dragster ou une Formule 1, ou une voiture de rallye, que sais-je, ou un bus en mode, vous savez, comme Keanu Reeves dans le film, là, où le bus, il ne pouvait pas décélérer. Je ne sais pas comment il va arriver. En tout cas, il est là dimanche soir avec nous il aime un peu la voiture, pour GP, non, pas GP, c'est F1. On sent la maîtrise sur ce jeu, hein. Je vais le découvrir. C'est la simulation de Formule 1, c'est ça ? Speed, le film, ouais, c'est ça. F1 23. Sachez que, mesdames et messieurs, il y aura volant. Vous avez bien entendu. On ne va pas jouer... on ne va pas jouer joystick. On ne va pas jouer clavier-souris. On va jouer volant. Je dirais même plus volant-pédalier, mesdames et messieurs. Ouais. Volant pédalier. Dinguerie. J'ai le carton. J'ai reçu le carton. Voilà. Donc on va bien rigoler. J'espère que vous serez nombreux. Je compte sur vous. Je donne rendez-vous dimanche. Et puis, puisqu'on parle de Samplay, je ne résiste pas à l'envie, en introduction à ce stream aussi, de vous rediffuser ce petit extrait du Samplay de la semaine dernière avec Jiraya, qui m'a fait découvrir. Donc c'est l'objectif à chaque fois, de découvrir l'univers d'un jeu vidéo. Donc, l'univers de Mario Kart, dont il est fan, voilà. On a fait quelques courses ensemble pour rigoler. Et puis, on a fini l'émission sur un mode battle à Mario Kart, en mode bobombe. Voilà. Et la chance m'a souri. Et j'ai mis ce qu'on peut bien appeler une déculottée à l'ami Jiraya. On a bien rigolé. Voici un extrait.
Oh, le move de fou, non? Mais c'est dingue. C'est une dingue, je me fais laver ou c'est quoi? Samuel! je comprends pas, je le touche jamais, les gars.
Non,
c'est une dinguerie.
Non, parce que je suis. Non, parce que la bombe, c'est moi.
C'est le meilleur joueur de France ou quoi? Ah, c'est touché. Ok. Elle a mis ma mère tryhard. Il est trop fort, c'est le meilleur joueur. Il a trouvé son mode de jeu, les gars. Je peux pas le battre. Il est où Samuel? Viens de battre.
Ah!
Non, mais il est trop fort! Les gars, il est trop fort, il est en sport! C'est son mode de jeu!
C'est parti là?
Bah, en fait, tu m'as éliminé tous les ballons, mais du coup, t'es à 5, y a 5-0 quoi! Je me suis fait humilier par Samuel Alletier, je me suis fait humilier par un mec qui lit des fiches quoi! J'ai goûté les gars! Viens, j'arrête le stream dès demain!
Ah non, c'est pas fini! C'est fini? C'est tout, il y avait que ça? Ah, c'est drôle, voilà! C'est drôle, on a ri. Oh là là, c'est dur. Il y a Griffon, c'est Griffon Nirden qui écrit dans le chat. Rare de voir des personnes âgées s'amuser. S'amuser quoi? S'amuser sur les jeux vidéo, bravo Samuel. Ah, oh, c'est méchant. Ouais. MMG est en mode très optimiste. Spoiler, tu ne seras pas aussi performant dimanche sur F1 23. Vous ne savez pas. Je pense que je vais ratatiner le bouseux au volant. Vous n'allez rien comprendre parce que les Bretons, on a ça dans le sang. La conduite. Vous, c'est la conduite. Nous, en Bretagne, c'est le pilotage. En Bretagne, on pilote. On a ça dans le sang. L'avenir, le bouseux, il est breton. Mieux que ça, d'ailleurs, je peux vous dire que nos familles respectives sont issues du même petit village de genre 10 habitants en Bretagne. On s'est rendu compte... Non, ce n'est pas l'alcool dans le sang. Arrêtez avec ça, bordel. Le pilotage. On a le pilotage dans le sang. Voilà. Donc oui, le bouseux est breton, mais j'ai pour moi l'expérience. J'ai la vision. Voilà. J'ai le regard qui porte loin. Voilà. Vous le verrez d'ailleurs dans Top Gear que j'ai enregistré récemment, qui sera diffusé en 2024 avec l'équipe de Villebrequin. Donc on va se régaler. Energix, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Tartiflette Forever. Ouais. Rendez-vous au premier virage, comme dit l'ami. Effectivement, voilà. Donc ça va être super. Ouais. Ben voilà, c'est à peu près. Est-ce que je vous ai tout annoncé? Oui. Pour finir l'introduction à ce stream, et après on va y aller quand même. Des choses à vous lire. Je vais quand même vous passer. J'ai fait iSide aussi, ouais. Parce qu'à la base, moi, je suis plutôt moto. Ouais. J'ai même été iSide, cette émission sur la moto, présentée par Bader, un truc formidable. Et dans l'émission, il y avait un truc qui s'appelait, Bref, c'est des personnalités, pas des pilotes, mais des gens qui aimaient bien la moto et qui venaient faire un peu de circuit pour la première fois de leur vie. L'objectif étant de toucher le genou par terre. C'est comme les pilotes, vous savez, le genou par terre. Et j'ai été, dans l'histoire d'iSide, le premier à une star, un slider, exactement. Le premier et le dernier à poser le genou. Bon, j'ai posé la moto aussi, mais ça, c'est... À poser le genou sous la pluie. C'est Bibi. Pilote, c'est les Bretons, ça. C'est comme ça. Vous y pouvez. Ouais. Je suis pas malin. Je suis pas plus doué qu'un autre, mais je suis têtu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu me dis qu'il faut faire un truc. Je le fais. Tu veux que je pose le genou? Je pose le genou. Voilà. Tu veux que je pose? Voilà. Bon, j'ai posé la bécane. C'est pas grave. C'est que du matériel. Je suis un peu têtu. Et maintenant, on va rendre hommage à Bruno Guillon. Bruno qui, donc, on l'a appris cette semaine, l'animateur de France Télévisions et de Fun Radio, qui a été victime d'un homejacking, c'est-à-dire qu'en fait, il a été cambriolé dans son sommeil en pleine nuit. Il s'est réveillé avec un pistolet sur la tempe. Son épouse et son fils de 14 ans ligotés, et des serflex au poignet, voilà. Et les malfaiteurs ont fait base sur divers objets dans la maison. Donc séquence, vous imaginez, vous vous réveillez en pleine nuit avec un pistolet sur la tempe et vous voyez des malfaiteurs cagoulés s'en prendre à votre famille, quoi. Donc l'histoire est hallucinante. Hallucinante aussi la réaction de Bruno Guillon qui le lendemain était de retour dans la matinale de Fun Radio et qui a fait passer ce message à ses auditeurs. à propos de ça. Et c'est du Bruno Guillon tout craché. Et le mec, il est énorme. Écoutons.
Je pense que vous avez vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on n'est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Voilà. Et je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches. Et beaucoup de gens que je connaissais pas qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Et c'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on n'est riche que de ses amis. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort. On ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. Je pense que vous avez vu comme tout.
Et ça, donc moi, je crois que c'est un, je crois que c'est un viewer qui me signale sur Twitter la séquence, donc je vais la voir. Voilà. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. D'abord, je pense que vous l'avez été aussi extrêmement touché par ce qu'il dit au début sur le fait que voilà, on est de riches que d'amis. Je pense qu'il a effectivement reçu des centaines ou des milliers de témoignages de proches, de copains, de camarades, de son boulot, mais aussi d'anonymes, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement populaire et qui le mérite, parce que c'est un mec formidable. Et il a été touché par ça. Et puis, alors, par contre, je n'entendais pas du tout à la deuxième partie de cette vidéo où il explique que manifestement, il a fait face à cette situation à poil. Voilà, donc, un mec formidable. Et alors, j'ai lu rapidement sur les réseaux que les malfaiteurs auraient été interpellés. Malfaiteurs supposé. Et ça, je ne l'ai pas vérifié et donc je n'en suis pas sûr. Alors on vérifie. Parce que moi je l'ai vu rapidement. Ouais, oh la vache. Moi je l'ai pas cette info. Hein. Je l'ai pas cette info. Hein. Non. Je sais pas. Ah, tu voyais comme quoi hein, l'info sur les réseaux sociaux. Hein. Moi j'ai absolument pas l'info. Que ces personnes auraient été interpellées quoi. Donc comme quoi l'info ça se vérifie quoi. Ouais, c'est quelque chose que vous avez vu vous ou pas? Je crois pas. Hein. Ah voilà, info ouais, info chat, bon, pour le coup info Twitter. Et alors ce que j'apprends en cherchant un petit peu sur internet là, c'est que il a donné une interview à RTL. À propos de ça, où il a dit à quel point quand même ça avait été violent quoi. C'est quand c'est ce matin. Elle date de quand cette interview? C'est ce matin. C'est ce matin sur RTL. C'est ce matin. Chez Yves Calvi. Ouais.
Bonjour Bruno Guillon.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup d'avoir choisi RTL pour vous exprimer 48 heures après la violente agression dont votre famille et vous-même avez été victimes à votre domicile. Je crois important de vous dire d'abord que tous vos amis du groupe M6, de son pôle radio, RTL, RTL2 et Fun Radio, sont heureux de vous retrouver et que nous pensons affectueusement à votre famille. Je rappelle que vous avez vécu ce que vous avez vécu avec votre épouse et votre fils. C'est d'ailleurs tout ce que nous redoutons les uns et les autres. Dans la nuit de mardi à mercredi, des hommes cagoulés pénètrent à votre domicile. Quelle heure est-il et combien sont-ils?
Il est aux alentours de 3 heures du matin et ils sont 3. Je suis en train de dormir, évidemment. Et j'entends mon fils qui parle. Donc je pense qu'il me parle et qu'il a un souci. Donc j'ouvre un œil. Sa chambre, en fait, c'est un long couloir et sa chambre est avant notre chambre. Et j'entends quelqu'un d'autre et je dis, mais avec qui il est en train de parler? Donc évidemment, je me lève. Et là, tout de suite, je vois une lumière qui fonce vers moi avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant « on va vous buter, tais-toi, on s'est quitté et voilà. »
Comment ont-ils pénétré dans votre maison?
Ils ont cassé un carreau au rez-de-chaussée. Nous, on vit à l'étage et donc ils ont cassé un carreau au rez-de-chaussée. Ils sont montés à l'étage discrètement.
Donc vous entendez la voix de votre fils, vous êtes agressé. Cet homme immédiatement. Enfin bon, c'est un cauchemar. On a le temps de réaliser.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est même pas de la peur. On sort de son corps, c'est une sidération. Je vois ma femme Avec un pistolet sur la tempe. Je suis désolé. Je vois mon fils qui est menacé par deux gars. Tout de suite, on m'attache les mains dans le dos. On m'emmène dans la chambre de mon fils. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont nous tuer. Et je vois ma femme avec quelqu'un d'autre, avec une arme sur la tempe, et ils l'emmènent dans le couloir. Alors je leur demande de me prendre moi et de laisser ma femme avec mon fils. Mais ils partent et ils nous renferment dans la chambre avec mon fils qu'ils attachent. Et là, on reste renfermés pendant ce qui sera, je pense, les 30 minutes les plus longues de ma vie. Avec un gars qui nous surveille. Et tantôt, ils sont deux, tantôt, il y en a un qui sort rejoindre l'autre. Et ils remontent toutes les 10 minutes en hurlant que s'il y a des trucs qu'on ne leur dit pas sur ce qui sont cachés dans la maison, ils vont tous nous tuer. Je pense qu'au départ, ils sont assez déçus parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Ils trouvent, oui, deux, trois montres. Et donc, après, ils commencent à s'énerver parce qu'ils veulent d'autres trucs, en fait.
Que vous n'avez pas.
J'ai pas. Donc, voilà, ça crie beaucoup. C'est une catastrophe. À un moment, il revient vers moi sur le lit et il me violente en me remettant le pistolet sur la tempe en disant « Je te préviens, si vraiment on trouve quelque chose, de l'argent, etc., et tu ne l'as pas dit, ça va aller mal. » Et là, il y a Anatole qui est à côté, qui prend peur et qui dit...
Votre fils.
Mon fils, ouais. Qui dit, mais moi, j'ai une enveloppe avec tout l'argent qu'on me donne depuis que j'ai 5 ans. C'est ses étrennes, ses cadeaux d'anniversaire, etc. Et donc, il lui demande où est l'enveloppe. Et ils prennent l'enveloppe. Et voilà, et ça dure encore un peu. Et puis, alors, avec nous, dans la chambre, il y en a un qui... En fait, ils sont trois. Il y en a un qui est vraiment nerveux, qui a le flingue. Et les deux autres, on sent qu'ils subissent un peu le gars, quoi.
L'autorité et la violence, ouais. Du troisième.
Et donc, celui qui est dans la chambre avec nous, à un moment, mon fils lui dit « Mais faites pas de mal à ma maman, j'en ai qu'une. » Et le gars lui dit « Mais tu sais, moi aussi, et si vous êtes gentil, de toute façon, on sera gentil. » Et voilà. Et ils m'ont dit je vais jeter le téléphone sur les trampolines. On a un trampoline pour mon fils dans le jardin. Il dit « Je vais jeter le téléphone sur les trampolines. » Et donc, ils sont sortis, ils nous ont enfermés dans la chambre. Et au bout de 5 minutes, je suis sorti de la chambre. Je suis tout de suite allé voir où était ma femme. Et elle était dans mon bureau, attachée, pieds et mains sur un fauteuil et bâillonnée avec du scotch autour du visage. Donc, je l'ai tout de suite libéré. J'ai regardé si elle allait bien. Et je suis sorti dehors pour voir si les téléphones étaient là. Et ils étaient là et j'ai appelé la police.
Combien de temps a duré cette torture?
Ça a duré 35-40 minutes. C'est très long.
Vous avez craint le pire?
Ouais. En fait, c'est ce que je disais. J'ai pas eu peur pour moi. J'ai eu peur pour Anatole et pour Marion. Et je me suis senti tellement impuissant, quoi.
Bruno, est-ce que vous allez continuer à vivre dans cette maison?
Alors, c'est la question qu'on s'est posée après. Et j'ai dit à Marion, j'ai dit, si on ne dort pas ici ce soir, je pense qu'on n'y dormira plus. Et j'ai quelqu'un qui connaît très bien Patrick Pelou, qui du coup m'a appelé et qui m'a dit, écoute, moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu restes chez toi. Ce soir, fais venir des potes, soyez entouré, etc.
Je rappelle qu'il est médecin. Hein.
Oui, exactement. Ouais.
Spécialiste donc, de l'urgence.
Ouais, ouais. Je vous avoue que j'ai une chance par rapport à Anatole et Marion, c'est que le fait d'avoir repris le travail hier m'a fait beaucoup de bien.
Oui.
Je me suis un peu construit une bulle autour de ça. Voilà, être entouré des gens qu'on aime, j'ai cette chance au travail, fait que ça aide. Là, c'est vrai que j'essaye de pas trop craquer. C'est pour ça que je suis désolé là ce matin, mais c'est parce qu'il y a des images forcément qui reviennent et qui reviendront pendant longtemps. Ouais.
Vous avez tenu à remercier les milliers de personnes qui vous ont témoigné leur soutien. Mmh. Ce soutien vous a-t-il aidé à reprendre le dessus et à être avec nous aujourd'hui?
Alors, c'est pas que ça a aidé, c'est que c'est ce que j'ai dit hier en arrivant à la radio. C'est l'amour que j'ai reçu de milliers de gens que j'ai été amené à croiser dans ce métier d'auditeurs, de téléspectateurs. C'était rigolo parce qu'à chaque fois, les gens envoyaient des messages en disant « Je suppose que tu dois en recevoir un millier. » Et ben si, en fait, ça m'a fait un plaisir fou. J'ai des gens que je n'avais pas vus depuis 30 ans qui m'envoyaient des messages. Ça fait chaud au cœur et ça aide à penser un peu les plaies. Ouais.
Avant de nous séparer, une dernière question. Qu'avez-vous appris dans cette épreuve, si tant est que vous ayez appris quelque chose?
Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis surtout, voir ses proches menacés, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver au monde. Donc voilà, donc c'est ce que je disais à ma femme. Faut jamais partir ou se coucher fâché. On ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. Et puis c'est ce que j'ai dit à la radio sur le ton de l'humour. Mais faut toujours se coucher avec un sous-vêtement parce qu'on ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. Pour l'anecdote et pour essayer d'amener un petit peu de sourire dans tout ça, moi qui dors tout nu, bon, j'ai passé donc 35 minutes, les mains attachées dans le dos avec un serflex et à poil.
Merci beaucoup, Bruno.
Merci à vous.
On vous retrouve tous les jours sur Fun Radio de 6h à 10h, je le rappelle, avec toute votre équipe. Bon week-end, on vous embrasse.
C'est gentil, merci.
Et on vous aime.
Merci beaucoup.
Bonjour, wow. Bruno Guillon.
Bonjour, Yves.
Merci.
Ok. Je ne savais pas que Bruno avait donné une interview ce matin à nos confrères d'RTL, qui fait partie du même groupe que Fun Radio. Je ne m'attendais pas à un témoignage aussi fort. Enfin, on l'a écouté ensemble, j'ai vu vos réactions. Je savais qu'un pistolet avait été pointé sur lui et sur sa tempe. Je ne savais pas que sa femme avait été également menacée d'un pistolet. Et on a senti son émotion. Waouh! Ce témoignage est tellement fort qu'on va, on va le retweeter quand même, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'écoute et qui se partage. C'est fou quand même. Hein. Voilà. Waouh, c'est incroyable quand même. C'est fou quand même ce truc. Bon. Voilà. Wow. Pardon, ça m'a un peu mis sur le cul ce témoignage. Je savais pas qu'il avait parlé en fait. Bon, alors on était parti sur une blague, donc c'est un petit extrait sur Fun Radio où Bruno Guillon donc fait cette petite blague sur le fait qu'il était nu. Mais évidemment là on a pris la violence de ce qui s'est passé en pleine face avec le témoignage de Bruno qu'on a senti super ému, qui était donc de retour dès le lendemain sur l'antenne de Fun Radio, qui sera sûrement mobilisé ce week-end, je vous le disais, sur les Restos du Cœur, puisque Bruno accompagne les Restos du Cœur depuis c'est vrai, le témoignage du jeune garçon là qui à un moment dit mais moi je vais vous donner toutes mes économies depuis que je suis petit, c'est vrai que c'est assez fou. Et donc Bruno qui accompagne les Restos du Cœur depuis très longtemps déjà, parce que je vous le dis, je vous le répète, c'est un mec formidable, comme il n'a pas énormément dans le PAF, il y a des gens très très bien en télé ou en radio, mais c'est quand même un mec assez exceptionnel. Et donc Bruno fait un truc ce week-end sur une radio numérique autour du Resto du Cœur avec des amis animateurs, et je dois le retrouver samedi midi, et je sais qu'il sera là parce qu'en fait c'est un garçon exceptionnel. Voilà. Donc tout ça pour dire aussi qu'on a vérifié cette info que j'avais vu passer sur les réseaux comme quoi ces agresseurs auraient été déjà interpellés. A priori, c'est non. Dilef, merci pour le 7e mois d'abonnement. Et maintenant, on y va. On y va, quoi. Ouais, ils ont pris les thunes du gamin, quoi. Bah ouais. Bah ouais, c'est des délinquants, c'est des criminels, donc. À la base, ouais. C'est fou, ouais. Ouais, c'est vrai, le témoignage du garçon de 14 ans, je crois qu'il a 14 ans, c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est fou, quoi. Et on imagine, c'est ce qui nous a tous touchés et émus, là, c'est que tous les trois ont sans doute à un moment pensé que. Ça allait peut-être très mal se terminer ce truc, puisque vous avez entendu Bruno qui disait que les trois hommes étaient quand même ultra menaçants en mode si vous ne donnez pas ce qu'on veut, quoi, on va vous tuer, quoi, puisque ces mots ont été prononcés quand même. Voilà. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en revenir. En tout cas, pensez, force à Bruno et à sa famille. Les amis. Je dois vous quitter à 11h30 parce qu'à 11h30 un taxi m'emmène vers ce tournage très 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 secret avec la crème de la crème des streamers et des youtubeurs français. Est-ce que vous êtes ok pour un petit sommaire des journaux d'aujourd'hui et d'hier, parce qu'hier j'ai pas streamé et je vous ai mis des petites choses de côté. Est-ce qu'on y va? Est-ce que j'ai un yes?
Yes.
Ça c'est un petit yes, que j'ai un gros yes.
Yes.
Ok, je prends ça pour un gros yes. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour ceux qui n'ont que 5 minutes, qui n'ont pas 2 heures à nous consacrer, voici l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui et d'hier. C'est parti. Je suis content. parce que je vous ai trouvé un petit article sur les punaises de lit. Voilà quelques jours, quelques semaines qu'on entend parler de ces histoires de punaises dans les cinémas, dans le train, dans le métro, à la maison. On dit, ah, c'est marrant, c'est quoi ce truc ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un vrai problème ? Voilà. Et bah, j'ai trouvé le premier dossier un peu complet sur le sujet dans Le Parisien. Il y a l'EDEM qui dit, non, pas encore. J'en ai jamais parlé. L'EDEM, j'en ai jamais parlé. Pas encore de quoi ? Pas encore. J'en ai jamais parlé. Bordel ! Bordel ! Donc, premier dossier important sur le sujet. On va voir si c'est important, pas important, si c'est anecdotique, pas anecdotique. Sylvinus, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Comment ça ? Parce que tout le monde en parle tout le temps. Parce que vous écoutez d'autres journalistes ? Comment ça, tous les médias en parlent ? Attends, je comprends pas. L'info, c'est pas que la matinée étienne ? Attendez, quoi ? Quoi, vous regardez d'autres télés, d'autres radios ? Quoi, Hugo décrypte ? Quoi ? Ah ouais, ok, il faut multiplier les sources. Ok, je valide. Vous avez raison. Vous avez bien raison. Donc, rapidement, les punaises de lit pour la première fois sur cette chaîne. La Corse, très important. Qu'est-ce que c'est que ce move du président Macron sur la Corse ? Il a carrément changé son fusil d'épaule. Je ne suis pas sûr que pour la Corse, ce soit forcément l'image parfaite. Mais en tout cas, il a changé de ligne sur la Corse et il a ouvert la voie à une possible autonomie de l'île. C'est un vrai changement de discours. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. On verra de quoi il retourne. Article dans Le Parisien. Article dans Libération. Aussi avec une autonomie qui doit passer par une réforme de la Constitution. Aïe, 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 aïe. Réforme de la Constitution, c'est compliqué de réformer la Constitution. Il faut trouver une majorité qualifiée à l'Assemblée, au Sénat. Voilà. C'est pas fait, cette histoire. Donc, on verra ça. Le harcèlement scolaire, encore. Alors là, vous pouvez dire encore, parce que je vous en parle très souvent, du harcèlement scolaire, parce que c'est très important. Enfin, la société française prend la mesure de ce fléau. Voilà. Et donc, je vous en parle régulièrement, notamment après, hélas, les suicides de très jeunes gens ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ce n'est pas un jugement politique, mais le gouvernement, l'exécutif, vient de faire une série d'annonces. C'était mercredi, je crois. Et un plan comme ceci, contre le harcèlement scolaire, c'est la première fois. Alors, ça va marcher ou pas marcher, c'est à la hauteur, pas à la hauteur. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire, c'est pas un jugement politique, que pour le coup, jamais un gouvernement n'avait proposé autant de choses, autant de mesures sur cette question. Un plan ambitieux, comme le dit Clem, on va se pencher là-dessus avec nos amis du Figaro et avec Le Monde, puisque c'est la une du Monde datée de vendredi. On me dit que Jean en a parlé hier dans Backseat. C'est normal. Jean, c'est un garçon excellent. La France en panne de bébé. Oh, il est comme un petit bonhomme. La une de La Croix. Le Figaro en parle aussi. Alors, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé. C'est vrai qu'on fait de moins en moins d'enfants, de bébés en France. Voilà, c'est même en train de baisser sérieusement. Et alors, ça pose des questions. En soi, c'est pas une obligation de faire des enfants. C'est juste que sur un plan économique, notamment, ça pose des questions. Lesquelles, on verra. Et alors pourquoi ? Pourquoi les Français, les Françaises font moins d'enfants qu'avant ? Voilà. Eden Blaster, Hugo, merci beaucoup pour le 18e mois d'abonnement. Eh bien, on se penchera sur les raisons, alors les suppositions, parce qu'il n'y a pas d'études très 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 poussées, très 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 précises là-dessus. Et donc, on se penchera sur cette question, pourquoi les Français font moins d'enfants qu'avant. Et les soucis, entre guillemets, que ça peut poser. Donc, dossier dans La Croix, dossier dans Le Figaro. Et puis, du positif, parce que moi, j'essaie toujours de vous trouver aussi des infos positives. Justement, il semblerait que le gouvernement soit en train de réfléchir à une réforme du congé parental, voilà, pour enrayer cette baisse de ce qu'on appelle un peu cliniquement le taux de fécondité des femmes en France, voilà, pour que les Français fassent plus d'enfants, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura réforme du congé parental ou pas ? On verra bien. Je sens que ça vous inspire, ce sujet. Comme tu es ma seule source d'infos, me dit le Brousquet, tu peux nous dire comment on fait les bébés ? Alors, alors je peux vous expliquer comment on ouvre une bouteille de lait pour les bébés. C'est très personnel. Hein, parce que chacun a sa méthode. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans le domaine de tout est possible. Hein, le domaine de l'amour, de la sexualité, tout est possible. Tout est possible entre adultes consentants, mais tout est possible, quoi. Donc je ne vais pas tout vous expliquer là. On va manquer de temps. Par contre, je peux vous montrer comment on ouvre une bouteille de lait, si vous voulez. Hmm? On est des gamers, Samuel, on ne sait pas faire, on ne fait que jouer. Je vous kiffe. Donc voilà, on se penchera là-dessus. Alors moi, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, il s'appelle Alain Raymond, qui signe, Alain Raymond, tous les jours un petit billet, un petit édito, souvent humoristique, vif, dans la croix. Voilà. C'est parfois un peu déconnecté de l'actualité, parfois c'est complètement sur l'actualité. Et là, il y a Alain Raymond qui se penche sur l'évangile, selon Stéphane Ravier, qui est un sénateur des Bouches-du-Rhône, membre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc l'évangile, selon ce monsieur, et Alain Raymond nous a fait un petit billet que j'ai trouvé assez réussi. On verra. Alors, sur comment faire des enfants, alors chacun y va de son petit conseil dans le chat. Il y a Mounir, par exemple, qui dit qu'il faut absolument du beurre demi-sel hein, pour faire des bébés. Ça ne marche pas avec du beurre doux. Le beurre qui nous rappelle, pour les cinéphiles, c'est une scène mythique d'un film avec Marlon Brando qui a fait grand scandale il y a très longtemps. Vous n'étiez pas né. Dernier tango à Paris, un truc comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça le nom du film. Le dernier tango à Paris ou un dernier tango à Paris. On va aller voir. La scène du beurre. Le dernier tango à Paris. Exactement. C'est ça. Ouh là là, heureusement que je vous ai pas mis l'image tout de suite parce que on est pile sur la scène du beurre. Est-ce que je peux vous trouver une photo qui peut se regarder ? Non, pas vraiment. Ok, d'accord. Dernier tango à Paris, qui est un film de 1972. Voilà. Comme le dit Julien, tu passes ça sur Twitch, c'est ban def. Exactement. Donc, on le passe pas. Donc, on verra l'évangile selon Ravier. Alors, là, comme ça, je suis pas sûr que je vous en aurais parlé. Sauf qu'en fait, Arnaud de sa mère, ce soir, dans l'hebdo Etienne, voulait nous en parler. Je me suis dit, bah, ok, on va regarder ça, alors. Est-ce que les supporters, notamment les ultras, ont pris trop de pouvoir dans les clubs de foot? Bah, Arnaud m'a envoyé un petit message hier, juste avant sa représentation, parce que je crois qu'il est... Il joue un spectacle ou une pièce en ce moment. Il m'a dit, ah Sam, demain, j'aimerais bien vous parler de ça. Demain. Ouais, c'est ça, demain je fais la radio pour les enfoirés, ouais, pour le Resto du Cœur, Alexandra, exactement, avec mon ami Bruno Guillon, exactement, demain à la mi-journée. Donc Arnaud voulait en parler, il me le dit hier soir, et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien qu'il y a deux articles ce matin dans le Parisien et dans l'Humanité sur ce sujet, est-ce que les supporters, notamment les ultras, ont pris trop de pouvoir ? Et puis, chose promise, chose due, parce que je suis comme ça, mercredi, on a été pris par le temps, parce que je partais où, moi, mercredi matin, pour partir si vite, là, qu'est-ce que j'avais, moi J'ai pris un taxi qui m'a emmené où ? Qu'est-ce que j'ai fait mercredi matin ? Je suis parti. J'avais un truc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Montélimar, c'était hier. Non, je suis pas venu chez toi, Naboy, c'est pas vrai. J'ai aucune vie sociale. Je fais que travailler. Oh oui, une interview à 11h30, c'est ça. Et donc, eh ben, on est resté sur notre faim parce qu'on avait un pur dossier sur le sport médicament. Alors le sport c'est bon pour la santé, bon c'est bon, vous le savez, c'est pas une info. Mais à ce point bon pour la santé, c'est-à-dire que le sport qui préserve de la maladie, notamment de maladies graves, hein, qui réduit le risque d'avoir cette maladie par rapport à une population qui ne fait pas de sport. Le sport parfois qui guérit même, qui aide à la guérison contre parfois des maladies dramatiques, là on a des études scientifiques, c'est vraiment l'alu quoi. Donc le dossier du Monde est passionnant, hein, je crois qu'il y a 3-4 pages sur le sujet. J'ai trouvé ce dossier tellement passionnant que j'en ai fait un thème pour ce soir dans l'hebdo Etienne, donc on va en parler. Vous avez vu ? Il n'est pas bon mon sommaire ? Il n'est pas bon mon sommaire ? Je m'applaudis tout seul. Je me dis yes tout seul.
Yes !
Exactement ! Voilà. Donc voilà, je suis assez content de ce sommaire. On a plein de choses assez sympas. Et pas que des choses négatives. Je trouve qu'on a des choses positives aussi. Quoi. T'as fini de te plaindre, John ? John ! John ! John qui écrit « Le sport bon pour la santé, les vertèbres qui se tassent. » Ah, j'ai ça moi. « L'augmentation des risques de fracture, rupture des ligaments. » Ah, j'ai ça moi aussi. « Les genoux flingués par la course. » Ouais. Ah bah hier j'ai croisé Jean-Paul Belmondo, c'est ça, le fils de Jean-Paul Belmondo, qui venait justement participer au festival de cinéma où j'étais à Montélimar, en béquille, bien amoché, voilà, et en fait énorme entorse, voilà. Et en fait, il a fait ça en courant. Il courait, il courait, il courait, il a loupé un trottoir. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être dangereux pour la santé aussi. Super Pink, merci beaucoup pour ce soutien. Voilà. Je vous lis un petit peu et puis on y va, hein, et on lance cette revue de presse riche de plein de trucs sympas. Sachez que par ailleurs, je peux à tout moment courir à l'interphone parce que suspense. Ce matin, j'attends la livraison d'un PC de gamer et de deux écrans pour m'installer, oui, un setup de gaming pour jouer à Rocket League, pour jouer à The Witcher, pour jouer à Mario Kart, pour jouer à Smash, pour jouer, voilà. Bon, alors je sais, bon, on va l'installer, je le reçois aujourd'hui, on va l'installer. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de jouer souvent, voilà, mais je pense que ça peut être très drôle de voir un mec de 98 ans se mettre à jouer aux jeux vidéo. Voilà. Je ne sais pas dans quoi je mets le doigt, mais ça va être énorme. Voilà. Bon, faudra, en gros, moi, le concept, ça va être je ne sais rien faire, vous m'expliquez. Des petits types, tiens, il y a un raccourci là, non, c'est pas sur ce bouton là, c'est sur l'autre, attaque putain, voilà. Donc ça va être un petit le principe, ça va être on joue ensemble. Ah, c'est pas mal ça. Ah, je tiens un concept, je viens de l'inventer, je suis une espèce de génie. L'idée, c'est qu'on va jouer ensemble, quoi. Il y a Taya qui me demande, est-ce que tu as la liste des composants du PC? Ouais, tout à fait. Bah oui, bah je suis un streamer, hein. Donc c'est un PC qui est formé d'une coque. C'est un truc autour qui tient, qui contient les éléments, et dedans il y a plein de choses qui font pour partie de la lumière. Il y a un processeur, il y a une carte graphique, des trucs comme ça, et derrière il y a des trous où on peut brancher des fils. Donc ouais, autant vous dire que c'est du matos. Ouais, il y a une alimentation aussi, ouais. Ouais. Bon, sachez que c'est le même. C'est le même PC qui m'a été prêté par Boulanger et Lenovo pour Simplay, notamment. Donc ici, ça devient une centrale nucléaire, quoi, ici, quoi. Ouais. Clavier-souris. Exactement. Certains me font remarquer que ma description de mon PC marche aussi avec un frigidaire. Ouais. Bon, voilà. Donc ça peut sonner à tout moment. Ok, on est parti. La facture d'électricité. Non, je ne regarde plus ma. Il y a Saruman qui dit la facture d'électricité à l'aide. Je ne regarde plus ma facture d'électricité. Vous savez qu'on stream dans un petit studio ici depuis le mois d'avril. Je ne regarde pas ma. Je n'ouvre pas mes factures d'électricité. Je ne veux pas voir. Je règle. Je clique, je règle, mais je ne regarde pas. Je ne veux pas regarder. Je sais pas s'il y a des lus. Et puis c'est pas fini, parce que on rajoute des pétions, on rajoute de la lumière. Je suis très content de la nouvelle lumière et de l'image dans l'hebdo Étienne. Je trouve vraiment que l'image est belle. Je trouve que c'est important. Dans Samplay, je suis pas content. La lumière est un peu rouge. On a l'impression que vous avez deux tomates ou deux poivrons rouges qui jouent ensemble. C'est pas cool. Et donc voilà, j'ai réinvesti dans la lumière. J'ai Olivier, le garçon qui travaille en lumière. En télévision sur des émissions que je connais bien, genre Question pour un champion, qui va revenir à la maison samedi matin pour améliorer encore la lumière de Simplay, quoi. Voilà. Donc laissez tomber la facture d'électricité. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on y va? Let's go. Est-ce qu'il y a un lecteur de disquette sur mon PC de disquette, quoi, 5 pouces, comme on dit, c'est ça? Oui, des floppy disks, oui. Oui, parce qu'en fait, au début, ils avaient pas mis. Et je leur ai dit, attendez, sur votre PC, là, il y a bien un lecteur de disquettes souples, vous savez, là. À mon époque, il fallait mettre genre 50 disquettes pour faire jouer un jeu avec 2 pixels. Donc, ils avaient oublié. Voilà. Donc, je leur ai demandé d'en rajouter un. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Let's go. C'est parti. Qu'est-ce qu'on rigole. Punaise. Punaise. Eh oui, il faut en parler, parce que tout le monde en parle. À un moment, je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment un problème, ça? Punaise, quelle psychose. Logement, transport, cinéma, c'est la une du Parisien ce matin. Le phénomène est tel que la mairie de Paris en appelle à l'État, hein, quand même, pour éradiquer ces insectes dont il est de plus en plus difficile de se débarrasser. Vous en avez qui? Bon, levez la main ceux qu'on est punaise ou qu'on est des punaises. Hein? Punaise de lit, la grande invasion, elles sont partout. Bobine Bouquine régale, mais tellement ce matin. Bim. 5 abonnements offerts à la commune, merci. Alors voilà, Monsieur Biganon en a, mais c'est volontaire, c'est un concept, à des punaises. Qui a des punaises? J'en ai dans mon bureau pour accrocher des posters, me dit Naboy. Ah non, mais pas ces punaises-là. Bon, tout le monde a fait la blague. La condamine, pareil, j'ai des punaises accrochées au tableau. J'en ai eu il y a 6 mois, c'était un enfer, me dit Rascope, vous voyez. Voilà, j'en ai eu il y a quelques années, c'était un enfer, me dit Kikil. Toulac, moi j'utilise du scotch, ça marque moins. Vous me faites rire. Ah, on me dit que l'assurance habitation ne prend pas en charge normalement les frais de punaise, me dit Rob. Voilà. Eden Blaster, donc notre ami Hugo, en a, en élève et les relâche dans le train après. Oh, c'est méchant. Peut-être méchant. Ah ouais, mais ça, vous voyez que certains flippent. Il y a Luberlu qui dit, non c'est plutôt Ur Luberlu, d'ailleurs il y a un R, j'ai acheté une housse de protection de matelas tellement je flippe. Voilà. Thibaut, très anxieux aussi, est armé de fumigène désormais pour que dès qu'il envoie chez lui, paf, il balance une grenade. Vous voyez? Eh ben lisons. Alors elles sont partout, dans les matelas, dans les sommiers, dans les cinémas. Dans les trains, dans les métros et même dans les hôpitaux. Cool, genre tu vas à l'hôpital, t'es pas en forme, bam, tu te réveilles, t'es bouffé de partout par les punaises, génial. Une étonnante prolifération qui semble impossible à endiguer. Constatant une recrudescence importante dans la capitale, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à Paris, vient de demander dans une lettre à la première ministre, vous voyez, ça rigole pas, un plan d'action à la hauteur de ce fléau, alors que la France entière s'accueille à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on n'aura peut-être pas beaucoup de médailles d'or, hein. C'est vrai que sans être super pessimiste, c'est pas super bien parti quand vous voyez notamment les derniers mondiaux d'athlétisme, mais on aura peut-être la médaille d'or de la punaise, des punaises. En seulement 5 ans, de 2017 à 2022, 11% des foyers français auraient subi une infestation de punaises de lit. 11%, c'est plus d'un foyer sur 10. Hein. C'est les conclusions d'un très sérieux et très épais rapport d'expertise de l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, qui le dit, publié en juillet. Donc vous voyez, c'est pas anecdotique quand même. Hein. Et elles ne se contentent plus de se glisser entre les draps et les couvertures, on les trouve désormais dans des endroits jusque-là épargnés, dans les cinémas parisiens cet été, les gens qui se sont plaints, hein, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans plusieurs TGV la semaine dernière, la SNCF qui n'a pas confirmé leur présence a surnettoyé de fond en comble ses rames tous les 2 mois, mais aussi il y a quelques jours dans une rame du métro parisien, la ligne 8, selon le signalement d'un conducteur. Les bestioles repérables à l'œil nu sont la nouvelle terreur domestique des Français. En vrai, certains sont un peu stressés avec ce truc. Je le vois dans le chat, elles se déplacent la nuit, saloperie, pour se nourrir de sang humain, saloperie, jusqu'à 6 fois leur propre poids en un seul repas, saloperie, et provoquant piqûres et démangeaisons, re-saloperie. Après leur repas, les femelles fécondées pondent, saloperie, tout au long de leur vie d'adulte, environ 5 œufs par jour, saloperie, dans un endroit abrité à la lumière, vous êtes vraiment des saloperies. Cette étonnante fécondité, vous noterez que les punaises de lit ont un taux de fécondité donc supérieur aux françaises, voilà. Puisqu'on parlera tout à l'heure du fait que la France fait plus de bébés, eh bien désolé. Je dois constater que le taux de fécondité des punaises est plus important que celui des françaises. Voilà. Désolé, c'est factuel. C'est factuel. Cette étonnante, non, ça me fait rire parce qu'on va parler de fécondité tout à l'heure. Cette étonnante fécondité est l'une des premières raisons de leur prolifération. Donc combien ils font? 5. Ah oui, 5 œufs par jour. Ah bah oui, on peut pas lutter. Oh, t'es con. Vous êtes con dans le chat. Vous êtes con. Oh non. Ah. Non, il y a un com, je ne peux même pas le lire tellement il est con. Kiliana, merci pour le 6e mois d'abonnement. Gaga 1412, merci pour le 10e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Kin, en revanche, alors la prolifération des punaises, rien à voir avec l'hygiène d'un logement. Hein. C'est un spécialiste de l'éradication des punaises qui dit si vous avez des punaises, ça ne veut pas dire que c'est sale chez vous, ça n'a rien à voir. Alors il dit, contrairement d'ailleurs aux blattes, alors ce spécialiste semble dire que les blattes, les cafards, si vous en avez, c'est que peut-être que vous laissez traîner un peu trop de bouffe, tout ça quoi. Mais pour les punaises, ça n'est absolument pas un truc d'hygiène. Merci beaucoup Red Metal pour le très gentil message, notamment sur l'univers des jeux vidéo. C'est super gentil. Il y a Sony qui dit, je t'en supplie Sam, est-ce que tu peux parler de Pascal Pro qui a encore fait une sortie catastrophique, on n'en peut plus de ce genre de conneries à la TV. Écoute, on peut pas tout faire. Je peux pas à chaque fois que Pascal Pro dit une connerie, vous en parler parce qu'on va finir par faire que ça. L'ANSES avance aussi comme explication l'essor des voyages. Vous voyez, il y a des explications en fait. L'essor des voyages, voilà, on voyage de plus en plus, on en ramène. Une résistance croissante des punaises aussi aux insecticides. Les punaises qui sont de moins en moins sensibles aux traitements utilisés pour s'en débarrasser. Alors, comme moi, je suis dans le positif, on va essayer de voir aussi comment s'en débarrasser quand même, non pas de Pascal Pro, mais des punaises. D'abord, comment les identifier, hein, pour les reconnaître. Pour pas confondre, par exemple, imaginons, si vous avez la vue qui baisse, pour pas confondre une punaise avec votre chien. Voilà. Et mettre un gros coup de bombe sur votre chien qui n'a rien demandé. Alors comment ? Alors déjà, la punaise est plus petite. Hein, de 4 à 7 mm. Voilà. Ni avec la belle-mère, ça marche aussi pour la belle-mère. Donc 4 à 7 mm, donc c'est beaucoup plus petit qu'un chien. La forme ovale et plat. Couleur brun mais rouge après le repas, saloperie. Nourriture sans, saloperie. Type de morsure jusqu'à 90 morsures en une nuit, pardon, saloperie. Symptômes, taches rouges. Si vous vous réveillez un matin, vous avez des taches rouges en relief de 5 mm à 2 cm avec un point rouge, démangeaison, c'est punaise, saloperie. Alors, bonne nouvelle. Risque, aucun risque de transmission d'agents infectieux, c'est-à-dire ça mord, ça gratouille, c'est une saloperie, voilà. Mais en fait ça peut pas te filer de virus ou de trucs quoi. Bonne nouvelle. Alors comment s'en débarrasser, parce que moi je suis dans l'info positive. Non, je parle pas de Pascal Pro, je parle des punaises. Pour tuer ces parasites, les draps et vêtements qui le supportent doivent être lavés à plus de 60 degrés. Une alternative existe pour le linge et les petits objets, 72 heures minimum dans un congélateur. Alors, je sais que parfois dans le chat, il y a des gens qui ont parfois du mal avec l'information, des concepts parfois un petit peu compliqués. Si vous soupçonnez votre chien d'avoir des punaises de lit ou de vous ne le mettez pas dans un congélateur pendant 72 heures. Non, non. Non, vous mettez que des choses inertes, des choses non vivantes, hein, des petits objets. Hein, voilà. Pas de chien, pas de chat, pas de belle-mère non plus. Un appareil à vapeur sèche au moins 120 degrés permet de détruire les punaises de lit dans les recoins et les tissus d'ameublement également. En cas de persistance, eh bien vous avez de la lutte chimique à l'aide d'insecticides puissants réservés aux professionnels, faites pas n'importe quoi. Assurez-vous toutefois que l'entreprise a un certificat CertiBioCid en cours de validité. Préparez-vous aussi à faire les valises pendant quelques jours parce que quand votre logement est traité, bah, normalement il faut s'en absenter plusieurs jours. Voilà. Ouais, c'est vrai, on parle de chiens. Il y a Florent qui dit on peut demander à un chien détecteur de trouver des endroits. C'est vrai, vous avez des chiens qui sont dressés pour détecter, confirmer la présence de punaises de lit. C'est vrai. Voilà, les punaises, vous avez le constat du fléau et vous avez aussi des solutions. Est-ce que j'ai des punaises de lit chez moi ? Non, j'en ai pas à ce jour. J'en ai eu dans un autre appartement il y a quelques années. Avant que ce soit à la mode, parce que moi j'ai toujours un petit coup d'avance, un défricheur de tendance. Voilà. C'est ça d'être hype. Et alors personne n'en parlait, moi j'ai eu des punaises de lit. Moi je me suis réveillé un matin, j'avais des morsures sur les pieds et les mollets. Et puis j'ai observé des petites taches bizarres et tout. Et puis je me suis renseigné, voilà. Et puis alors je l'ai fait, j'ai traité moi-même, j'ai trouvé un truc. moitié insecticide, moitié lance-flamme. Je sais plus comment j'ai fait mon truc. J'en ai barbouillé toute ma chambre, les pieds du lit et tout. J'ai dû laver les draps à fond là. Et puis, coup de bol, j'ai dû prendre le truc assez tôt et j'en suis débarrassé. Alors, il y a Monseigneur Algo, qui est l'ami des animaux et d'éthique, qui nous dit « Mais du coup, si elle pique, c'est pour se nourrir, non ?» Genre, hein, laissons-les. Non, ça va pas, non. Peut-être que si on dort ailleurs pendant 2 jours, elles partent d'elles-mêmes. Non, parce qu'elles font des, elles font plein de bébés. Non, faut leur crever la gueule. Moi, tu leur crèves les yeux, moi. Et puis, tac, tu prends un petit cure-dent. Tac, tac, tac. Comme ça, elle ne peut pas te trouver. Aucune pitié pour ces saloperies, comme dit Moumeux. Ah non, ça va. Moi, je respecte la vie. Je suis incapable de tuer un insecte. Je tue jamais une guêpe, par exemple. Une araignée, je la sors dehors, je la mets sur une petite feuille de papier avec un petit verre, hop, je la mets dans la nature. Voilà. Sauf les guêpes quand ils embêtent mes enfants et les moustiques quand ils piquent. Moustiques femelles, parce que j'ai une bonne vue pour mon âge et donc du coup je ne tue pas les moustiques mâles qui ne piquent pas, mais les punaises je leur crève les yeux en fait. Exactement. Tac. Sauf celles qu'on fait qui font des arts martiaux, parce que celles-là elles sont très très dures pour leur crever les yeux, parce que du coup elles se mettent comme ça, c'est-à-dire qu'elles me voient arriver tchac. Comme ça. Et là, tu peux pas crever les yeux. Si jamais quelqu'un veut vous crever les yeux dans la rue, ça c'est Jean-Claude Van Damme qui m'a appris ça un jour lors d'une interview. Tu fais ça. Et là, tu peux pas. On peut pas te crever les yeux. Donc, certaines punaises de lit connaissent cette défense. Bon, ici on lit l'actualité, mais on dit pas mal de bêtises aussi. Voilà. Non, pas du tout. Clément Polito, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie quand même, ce Sam? Si un jour quelqu'un veut vous crever les yeux dans la rue, punaise de lit ou autre, eh ben, vous verrez, c'est impeccable. C'est impeccable. Bon, parlons un petit peu sérieusement aussi de choses sérieuses, comme de la Corse. Sur la Corse, nous dit Le Parisien ce matin, mais Libération nous en parle également, la métamorphose d'Emmanuel Macron. C'est drôle parce que métamorphose, ça nous renvoie à Kafka. Et au cafard, et donc ça nous ramène un petit peu aux punaises de lit. Mais il y a Huguinex qui est en train d'halluciner, qui dit première fois que je regarde ce live. C'est bizarre quand même l'info chez Samuel Etienne. Ouais, on est un peu comme ça tranquille à la cool quoi. Donc sur la Corse, Emmanuel Macron serait en train de changer, soyons prudents quand même. Le chef de l'État a donc ouvert hier la voie à l'autonomie de la Corse. Autonomie, c'est énorme quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous suivez un petit peu l'actualité de la Corse, l'autonomie de la Corse, qu'il ne prenait pas en 2018, une révision de la Constitution est nécessaire, et ça, c'est pas si simple, nous dit Le Parisien. Envoyé spécial à Ajaccio et Bastia de Pauline Thévenot pour Le Parisien, qui nous explique que la quasi-totalité de l'Assemblée de Corse, à majorité nationaliste, s'est mise debout pour applaudir le président Macron. Une scène inimaginable il y a encore 4 ans, pas plus que ces mots du président qui a donc dit, c'était hier, « Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République ». À Ajaccio, ce jeudi matin, vient aussi parachever un nouveau revirement du chef de l'État dans ce dossier. Ainsi, le président se déclare favorable à ce que les spécificités de la Corse, celles d'une communauté insulaire, historique, linguistique, culturel, soit reconnu dans la Constitution. C'est énorme en fait. Hein. Au sein d'un article propre, dans la Constitution de la Ve République, la spécificité de la Corse serait reconnue par un nouvel article. Une concession donc aux nationalistes, et ce n'est pas le seul pas. Macron demeure opposé à la co-officialité de la langue, c'est-à-dire la langue corse qui serait langue officielle de l'île comme le français, ça pour l'instant c'est non, mais annonce un service public de l'enseignement en faveur du bilinguisme quand même. Dans ce discours qui a été travaillé avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a beaucoup travaillé sur le dossier corse ces derniers mois, Il plaide encore pour que la Corse bénéficie d'un cadre lui permettant de définir certaines normes et éventuellement de les adapter. Qu'il semble loin ce mois de février 2018, à l'époque de commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac, lors duquel il avait entamé un rude et durable bras de fer avec les nationalistes. Depuis, il y a eu des choses qui se sont passées. Les manifestations violentes de mars 2022, déclenchées par l'agression mortelle en prison d'Ivan Colonna, ont fait craindre le pire. Les tags Gloria, Ivan, Colon, Fora, Colon, dehors, continuent aujourd'hui d'apparaître sur les murs d'Ajaccio, de Bastia, l'épée de Damoclès d'une reprise des violences de peser. Vous êtes peut-être trop jeunes, certains. Moi, quand j'étais jeune journaliste, je me rappelle que la Corse, on en parlait quand même régulièrement parce qu'il y avait des attentats, parce qu'il y avait même des nuits bleues, on appelait ça. Les nuits bleues, c'était des nuits où ça pétait de partout. C'était, moi, je me rappelle, vous voyez, dans les années 90, notamment, c'était mes premières années de journaliste, 1990, régulièrement, on parlait de nuits bleues. Hein, c'est quand ça pétait de partout. Quoi. Ouais, les paillotes, mais les paillotes, c'était, il n'y avait pas que les paillotes. Il n'y avait pas que les paillotes. C'était... c'était des villas qui pétaient, des gendarmeries qui étaient attaquées. Ouais. Voilà. Qu'a-t-elle, pardon, Kalel, 9, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Je lis juste. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est Delphine, salut. C'est drôle. J'ai une collègue que j'aime beaucoup de questions pour un champion qui nous regarde. Voilà. Delphine, j'espère que tu n'as pas vu mon délire sur les punaises de lit et sur la façon de se protéger d'une attaque pour crever les yeux, auquel cas j'ai un peu honte. Mais merci à la fois pour les audiences de questions pour un champion, dont je me réjouis d'ailleurs. Regardez franchement, hein, questions pour un champion, 18h10 tous les jours, c'est quand même la plus belle émission du PAF. Quoi. Voilà. Et en plus, elle cartonne et ça nous fait bien plaisir. Delphine, merci beaucoup, ça me fait bien plaisir. Et puis que tu nous regardes aussi. Du coup, je vais être un petit peu sérieux maintenant. Alors, satisfaction de certains élus corses, comme Gilles Simeoni, qui est président du conseil exécutif de Corse. PAF, ça veut dire paysage audiovisuel français, Jeff. Satisfaction modérée par une insistante prudence. Il y a une ouverture, mais tout reste à faire, dit-il. Comme sur chaque contrat, d'ailleurs, il faut lire aussi les petits caractères, hein, les petites mentions. S'il n'y a plus de ligne rouge, il y a un idéal de la République, a pondéré aussitôt le président. Rien ne se fera, a-t-il prévenu, sans ou contre l'État français. Ça me semble le minimum. Surtout, renvoyant de facto la balle aux élus locaux, c'est intéressant, il requiert comme préalable à toute évolution institutionnelle un accord des groupes politiques à l'Assemblée territoriale de Corse. Donc déjà, il dit... Mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez. Hein. Donc, se mettre d'accord sur un texte, et ce, sous 6 mois. Et là, le Parisien nous dit, il y a un hic. Parce que l'hémicycle est divisé, les indépendantistes du parti Corée Infrante, eux, ne se sont pas levés pour applaudir, par exemple. Les élus de droite, eux, ne veulent absolument pas parler d'une autonomie. Sans oublier l'obstacle du Sénat, incontournable en matière constitutionnelle. Donc, non seulement il faut que les élus corses se mettent d'accord, mais c'est pas tout. Pour une révision constitutionnelle, il faut l'accord des deux chambres. Hein. Il faut que le Sénat, notamment, soit OK. Alors déjà, à l'Assemblée, vous savez que le président Macron n'a pas la majorité. Et au Sénat, c'est une majorité de droite. LR, confirmée par les élections... Salut Hugo. J'en reçois des textos rigolos. Confirmée par les récentes sénatoriales partielles, où la droite domine, et a priori la droite n'est pas forcément super chaude pour une autonomie de la Corse. Quoi. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a des annonces que cette autonomie de la Corse va aller au bout. Dossier dans Libération aussi ce matin, très bon titre comme toujours avec Libé, hein. Macron fixe le Cap Corse, c'est une localité dans le nord de la Corse par ailleurs, et qui confirme la route vers une inscription dont la constitution reste toutefois escarpée. Voilà. D'ailleurs, il y a un éclairage là, justement là-dessus, que je vous lis rapidement. Le chemin incertain vers une réforme constitutionnelle. Oui, c'est un cocktail aussi, le Cap Corse, c'est vrai. Aventurier, je vois qu'on connaît ces classiques. Pour mener cette nouvelle tentative de réforme constitutionnelle, c'est intéressant ça. Le président doit réussir là où il a précédemment déjà échoué. Obtenir un vote identique à l'Assemblée et au Sénat, suivi d'une validation par référendum ou par les 3/5 du Parlement réunis en congrès à Versailles. Une réforme, une révision de la Constitution. C'est pas un petit texte comme ça voté à la va-vite. Vous avez besoin d'un vote, donc une majorité, identique à l'Assemblée et au Sénat. Hein, c'est-à-dire que sur le même texte, vous avez un yes, d'accord ? Donc n'oubliez pas, Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée et il l'a encore moins au Sénat. Et après, il faut proposer ça aux Français, validation par référendum, yes, 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 ou par les 3/5 du Parlement, le Parlement c'est la réunion de l'Assemblée et du Sénat, réunis en congrès à Versailles. C'est pas fait. L'affaire reste mal embarquée, écrit même Libération. Faut-il un projet de loi constitutionnelle ad hoc uniquement consacré à la Corse ? Ou alors, est-ce que le président Macron propose une révision constitutionnelle avec plein de choses dedans ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y aurait dedans, par exemple ? Constitutionnalisation de l'IVG, par exemple. Là, on met l'IVG dans la Constitution pour le protéger. Réforme du référendum. Réduction du nombre de parlementaires. Voilà. Est-ce qu'on fait un texte global sur tout ça ? Ou est-ce qu'on fait un texte que sur la Corse ? Eh bien ça, on devrait le savoir dans les prochains jours. Vous avez bien compris que ça n'est pas fait, cette histoire. Voilà. Mais il y a un petit move du président Macron sur le sujet quand même. J'ai pas la ref, il y a Thibaut qui me dit que le PAF, c'est pour prévenir les attaques de choc à pic. Il y a Thibaut qui rigole très fort. J'ai pas la ref. Le PAF, c'est pour prévenir des attaques de choc à pic. Quelqu'un peut m'éclairer ou Thibaut prend des trucs super forts le matin ? Vous avez la ref là ? Et paf, ça fait des chocs à pic ? Quoi ? Paf. 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 Donc c'est pas Thibaut qui se drogue quoi. C'est un vrai truc. Okay.
Dis-moi d'abord, pourquoi ils sont pleins de chocolat ?
Eh ben avant, on gardait le chocolat dans un grand barrage. Mais un gourmand s'est servi tout seul. Et tout le chocolat a inondé les champs de blé. Et paf, ça fait des chocs à pic.
Un gourmand.
Choc à pic. Choc à pic. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic.
Ah, j'ai oublié le paf.
Et paf, ça fait des chocs à pic. Champs de blé. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, ça fait des chocs à pic.
Un goût.
Et paf, ça fait des chocs à pic.
Ouais, je suis DJ de YouTube en fait. Donc bonne nouvelle, Thibaut ne se drogue pas de bon matin. Et donc c'est une vraie ref. Ok, d'accord. Et paf, ça fait des chocs à pic. pardon. Voilà pour la Corse. C'est bon le choc à pic ? Comment ça, la pub la plus connue au monde ? Ben ouais, vaguement. Non, j'aime trop rien, non. Moi, je connaissais Galak. Un chocolat blanc. Chocolat blanc. Si blanc, si bon, je crois, disait la pub. Galak. Avec le dauphin Oum, je crois. Il faut que ça s'appelait Oum. Bizarre d'ailleurs. Oum. On dirait un nom de secte. Très bizarre. Ouais. Ouais, le slogan a mal vieilli, ouais. Pascal Olive, ouais. Si blanc, si bon, ouais. Tu m'étonnes. Oum le dauphin, ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que le slogan fait un peu suprématiste aujourd'hui. Tiens, puisqu'on parle de pub, on me parle du tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Donc ça, pour les plus jeunes, vous connaissez pas ça, c'est bon ça. Pousse. Ah, ça, les plus jeunes, vous connaissez pas ça. Ah, il y a plusieurs, parce que moi j'avais en tête un petit blondinet, mais je vois qu'il y avait un petit brun aussi. Attendez, je vous la mets. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice.
Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant.
Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Choco Suisse, signé Nestlé.
Il n'y avait pas un petit Blondinet aussi? Peut-être une version plus récente, non? Je ne sais pas, moi j'avais un... Attendez, on va retourner sur YouTube. Moi je me rappelle un petit Blondinet qui était chou aussi, qui disait ça aussi, je crois. Non, avec le petit brun, vous? Et que lui? Ah ouais, j'ai peut-être rêvé alors. Ok, d'accord. Ok. Il y a des trucs sur YouTube, on sent que... Moi, bon, ça a été beaucoup détourné, quoi. Ah non, c'est moi qui l'ai... Que du petit brun, d'accord. C'est moi qui rêvais. Ah, c'est Kinder, le bon dîner. Ouais. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre, vous m'avez dit, c'est de la dynamite. Ouais, je me rappelle de ça aussi. On va arrêter parce qu'on n'est pas dans culture pub quand même. Airmate, merci beaucoup pour le 9e mois d'abonnement. Et maintenant, je vais vous parler, et je redeviens sérieux pour le coup, je vais éviter de faire des blagues là-dessus, du harcèlement scolaire. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me réjouis que, eh bien, on assiste, et je le dis très sérieusement, à une prise de conscience au niveau de la société, au niveau des médias, au niveau des politiques, de ce fléau qui est le harcèlement scolaire. On en parle très régulièrement et on doit reconnaître, si on met de côté les polémiques politiciennes, que effectivement, eh bien, jamais un gouvernement n'avait annoncé un plan a priori, puisqu'on va voir l'application aussi après, aussi ambitieux sur ce sujet. Harcèlement scolaire, papier dans le Figaro, le gouvernement sonne la mobilisation générale. La priorité absolue de la rentrée. C'est ainsi que la première ministre Elisabeth Borne avait qualifié la lutte anti-harcèlement scolaire au printemps dernier. C'était peu après le suicide de l'INSEC, collégienne de 13 ans, dans le Pas-de-Calais. Puis début septembre, on a eu le suicide aussi de Nicolas, 15 ans, dans les Yvelines, qui a remis le sujet sur le devant de la scène. La présentation du plan d'action interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école, qui s'est tenu ce mercredi à Matignon, était donc particulièrement attendue. Nicolas, l'INSEC, Thibault, Ambre, Lucas... Chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous. Ce sont des enfants parfois visés en raison de leur handicap, de leur surpoids, de leur orientation sexuelle, pour un trait physique, pour un trait de caractère, a commencé la première ministre dans son discours, dénonçant un phénomène massif. Près d'un million d'enfants ont subi une situation de harcèlement au cours des 3 dernières années, a déclaré la première ministre. Des mesures donc viennent d'être annoncées cette semaine, qui viennent compléter déjà le décret paru cet été, le 16 août dernier, permettant désormais de déplacer l'élève harceleur, de le changer d'école, plutôt que le harceler, puisque jusqu'ici c'était souvent l'élève harcelé qu'on bougeait, ce qui est surréaliste, et le renforcement du programme phare, qui est un programme qui est mis en place depuis quelques temps dans les écoles, qui n'est pas encore répandu partout, et qui manque sans doute de moyens. Et donc ce programme phare, qui était déjà une bonne chose, eh bien, il est renforcé. Les mesures, les voici, et après on en parle ensemble, bien sûr. Renan, merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement. Saisine systématique du procureur en cas de signalement. La saisine du procureur de la République sera systématique en cas de signalement de harcèlement. C'est nouveau. Merci Alouette Lulu pour le soutien. 2. Créer des équipes académiques, au niveau des académies, hein, contre le harcèlement scolaire. Dans chaque académie, ces équipes vont être créées. Promesse, on verra si elle est tenue, mais c'est nouveau. Un questionnaire détection harcèlement proposé aux élèves à partir du CE2, donc c'est assez tôt, hein, le CE2. La libération de la parole sera au cœur de notre stratégie, a assuré le ministre de l'Éducation. Un questionnaire sera donc proposé à l'ensemble des élèves à partir, c'est une promesse, hein, on vérifiera, hein, à l'ensemble des élèves à partir du CE2 afin de détecter les signaux faibles de harcèlement, puisque l'une des difficultés parfois c'est de détecter le harcèlement. 2 heures, le 9 novembre notamment, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, seront dédiées à ce que les élèves remplissent ce questionnaire, ce qui permettra aux écoles, aux établissements scolaires, aux enseignants, éventuellement de détecter des situations de harcèlement qu'ils n'avaient pas jusqu'ici pu détecter. C'est nouveau. Instaurer des cours d'empathie. Ne riez pas, c'est quelque chose qui est en place au Danemark notamment depuis des années avec d'excellents résultats. Le ministre de l'Éducation est allé au Danemark la semaine dernière. La France va instaurer des cours d'empathie sur le modèle d'autres pays, notamment du Danemark, a annoncé Gabriel Attal. Dès janvier prochain, il y aura chaque semaine des cours d'empathie dans au moins une école pilote par département. Bon, ça commence doucement, vous voyez, ce sera pas partout. C'est nouveau. Bannir les cyberharceleurs des réseaux sociaux. Les élèves cyberharceleurs pourront désormais être exclus des réseaux sociaux pour une période de 6 mois, voire d'un an en cas de récidive. Nous allons, ça c'est important, ouvrir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention ainsi que le juge d'instruction de prescrire cette mesure de bannissement dans le cadre d'un contrôle judiciaire, donc sans attendre qu'une éventuelle peine soit prononcée après des mois d'enquête. Donc cette mesure de bannissement des réseaux sociaux, ça pourrait être décidé par un juge avant même qu'il y ait le jugement. Et puis confisquer les portables des cyberharceleurs. Dans les cas les plus graves, une saisie systématique, là aussi je pense avant le jugement du téléphone portable, pourrait être décidée par le juge. Alors comment on exclut quelqu'un des réseaux sociaux ? Bébert, très bonne question. Évidemment, dans ces mesures, notamment le bannissement des réseaux sociaux, hein, qu'est-ce qui empêchera le cyberharceleur de se créer un autre compte, de passer par un VPN ? Bon, évidemment que ça semble un peu illusoire. La confiscation du téléphone, qu'est-ce qui permettra éventuellement aux jeunes harceleurs, cyberharceleurs, de s'en procurer un rapidement ? Les sous peut-être ? Bon, ça me semble pas non plus très efficace. D'ailleurs, les journaux le disent ce matin. Le Monde en parle ce matin, c'est la une du Monde, un nouvel arsenal contre le harcèlement scolaire. Disons qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément convaincantes, mais que globalement, ce plan semble intéressant et peut-être, si on y met les moyens, pourra donner des résultats. Je vous lis l'édito que je trouve très bien écrit du Monde sur cette question. Que ce soit déjà la une du Monde, ce sujet montre bien qu'il y a quand même une prise de conscience sociétale et médiatique sur le sujet. Je parle beaucoup, mais je vais vous lire dans un instant, bien sûr. Harcèlement scolaire, la nécessité d'une révolution culturelle. Et là on est concerné. Et là, on est concerné, les parents sont concernés, on est tous concernés, puisqu'en fait, ce que nous dit le Monde, et le Monde a raison, c'est que ce combat contre le harcèlement scolaire, la réponse n'est pas que politique, la réponse elle n'est pas que au niveau de l'éducation nationale, la réponse elle n'est pas qu'au niveau des familles, elle est de la responsabilité de tous, et on peut tous jouer un rôle là-dessus. Édito du Monde, quelqu'un me dit c'est quoi un édito ? C'est quand un journal ou un journaliste donne son avis, en fait, va au-delà des faits et vous dit attention, ça n'est que mon opinion, c'est que mon avis, voilà, éditorial. Longtemps, écrit Le Monde, le système éducatif français et la société ont détourné les yeux. Hein, on parle de chamaillerie, de cours de récré, d'enfantillage. Hein. Oh, ça va les endurcir. Après les violences faites aux femmes, après les agressions sexuelles dans l'église, le harcèlement scolaire apparaît enfin pour ce qu'il est, un fléau social, une réalité qui pourrit la vie de centaines de milliers d'enfants. 10% des élèves, c'est énorme, en sont victimes, en moyenne, avec une pointe au collège, et conduit certains à se donner la mort. Avec 30 ans de retard sur les pays anglo-saxons et nord-européens, eh bien la France ouvre enfin les yeux, c'est un grand progrès. En sonnant la mobilisation générale mercredi, avec ce plan interministériel de lutte, la Première ministre prend la mesure du phénomène. Le renforcement du programme phare, hein, qui est le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, en cours de généralisation actuellement, qui n'est pas dans toutes les écoles encore. L'envoi d'un questionnaire à tous les élèves pour détecter le phénomène. Les cours d'empathie introduits dans l'enseignement élémentaire annoncé par Mme Borne vont dans le sens. La possibilité de confisquer le téléphone portable des harceleurs, voire de les bannir des réseaux sociaux également annoncés, pose davantage de questions, dit Le Monde, tant en termes de faisabilité et d'efficacité. Les expériences étrangères comme celle du Danemark le montrent, le harcèlement se traite d'abord par une prévention au quotidien et par une réaction rapide impliquant à la fois les élèves, hein, les élèves qui peuvent assister à des situations de harcèlement et qui doivent en parler aux adultes, aux profs, aux parents. Réaction impliquant les élèves, les parents, les enseignants et l'administration. Mais faire reculer durablement le harcèlement suppose en réalité, dit Le Monde, une véritable révolution culturelle. Le Monde qui dit qu'une histoire longue en France a conduit notre école, et je suis d'accord avec ce constat, qui est un constat je trouve un peu triste, a conduit notre école en France à privilégier l'acquisition des savoirs sur le bien-être des enfants. Bon, moi je suis un vieux machin, j'ai pas un très bon souvenir de l'école. qui était l'époque de mon époque. Et je me souviens plus de l'école comme un truc dur, encadré, où l'empathie vers l'enfant n'était pas démesurée. Et qu'en gros, les profs étaient là pour nous faire apprendre des trucs, hein, intégrer des savoirs avec des méthodes qui n'étaient pas dans la joie, la bonne humeur. Quoi. Voilà, bon. On me dit que ça a un peu changé, tant mieux. Mais le Monde dit, voilà, rappelle que notre histoire de l'éducation en France, c'est quand même une histoire qui a conduit notre école à privilégier l'acquisition des savoirs sur le bien-être des enfants. J'espère que ça a changé. Certes, les établissements ont besoin de davantage de conseillers d'éducation, de surveillants, de médecins scolaires, d'infirmières et d'assistantes sociales, bref, d'un renfort d'adultes encadrants. On a ces manques en France, mais l'éducation nationale doit aussi mieux dialoguer avec les familles et considérer les élèves non seulement comme des apprenants, mais aussi comme des personnes à part entière ayant droit à une scolarité heureuse. Alors, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais moi, cette phrase, elle m'a quand même touché. Parce qu'un journal comme Le Monde, qui est un journal assez sérieux, qui ne dit pas que des conneries, qui dit « Il serait temps que les élèves, y compris aujourd'hui en France en 2023, soient reconnus comme non seulement des apprenants, mais des personnes à part entière ayant le droit à une scolarité heureuse. » Si Le Monde le dit aujourd'hui, c'est que peut-être que les choses n'ont pas changé autant que ça depuis mon époque. Voilà. Je suis sûr qu'il y a plein de profs en France qui font merveilleusement bien leur métier et qui sont à la fois dans l'accompagnement, l'éducation, l'empathie, et que tout en étant exigeant avec les enfants, hein, il ne s'agit pas de faire de l'école une immense récré, ont aussi une empathie, sinon une tendresse forte, et qui se sent, parce que l'enfant il a besoin de sentir ça pour leurs élèves. Mais si Le Monde le dit aujourd'hui, c'est que finalement ça n'est peut-être pas autant répandu que cela. Je voulais un petit peu sur ce sujet qui est essentiel. Je remercie Petite Malouine en sucre pour ce 18e mois d'abonnement. Fanny me dit dans le chat, le début de l'émergence des droits de l'enfant a à peine un siècle. Pas étonnant que l'école soit encore en friche. Alors, voilà. Hier, je parlais à des jeunes à Montélimar d'information et de journalistes. Et bon, bah, de la même manière que je dis qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail et d'autres un peu moins bien, bah, un prof, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai un respect infini pour ce métier. Mais au moment, ce n'est pas leur rendre service que de dire qu'il n'y a pas aussi des mauvais profs, hein, évidemment. Oh, c'est mignon. Meltox 9 parle justement peut-être de quelque chose qui ressemble à ces cours d'empathie. Ma fille a fait ça à l'école, elle est en CE2, donc ça commence tôt, c'est bien. Ils ont chacun le nom d'un camarade de classe qu'ils doivent aider sans que celui ne le sache. Je trouve ça vraiment très bien. Je trouve ça trop chou, en vrai. Waouh. Commentaire de Lindblum, témoignage même. Au collège, je me faisais cracher dessus. Quand j'en avais parlé à un enseignant, il a rigolé. En disant que je n'y mettais pas du mien aussi. L'année suivante, il m'a pris comme exemple devant une classe, en me nommant, en disant que parti comme ça, je ne ferais rien de ma vie. Je dis bravo à cet enseignant, magnifique, superbe. Les enseignants ont aussi une part de responsabilité dans le harcèlement des élèves. Ça arrive. Alors moi, pour le coup, en 14 ans d'école de maternelle terminale, j'ai pas vu de comportement de harcèlement initié par les profs. J'ai jamais vu ça. En vrai, pour l'époque, je pense que c'était vraiment une bonne école. Et il y a aussi beaucoup de profs qui m'ont beaucoup touché. Et j'ai jamais vu un harcèlement dont les profs étaient initiateurs, quoi. Par contre, j'ai vu des enfants harceleurs, ouais. Hermione, qui est enseignant ou enseignante, me dit j'ai des collègues qui font honte sérieusement. Ben oui, mais c'est comme dans tous les métiers, c'est normal, c'est normal. Merci Mononeurone, très joli pseudo et merci pour le 21e mois d'abonnement. Non, je regarde juste si ma livraison de PC n'a pas essayé de m'appeler. Non, ça va. Bon, en tout cas, on en parlera ce soir parce que moi, je fais le constat que voilà, il y a une vraie prise de conscience en France aujourd'hui, enfin. Et il y a des mesures qui sont annoncées. On va surveiller. Il faut que ce soit appliqué. Il faut qu'il y ait des moyens aussi pour le faire. Mais il y a déjà une prise de conscience. C'est déjà pas mal. On en parle ce soir dans l'Hebdo Étienne avec, je vous le rappelle, puisqu'on a une belle affiche. Je suis assez fier de l'affiche, de la line-up de ce soir. Ce soir, on a donc le retour d'Arnaud de Samer qui revient pour la deuxième fois dans l'Hebdo Étienne. Valérie Damido qui a un peu son rond de serviette chez moi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui n'a pas la langue au fond de sa poche et quand on a un truc à dire, elle le dit. Il y a Thomas Hill, premier stream pour la très belle personne et le très bon journaliste qui est Thomas, qui est actuellement à Europe 1 le matin, et Defend Intelligence qui est un streamer, voilà, que vous connaissez peut-être, un ingénieur spécialisé en IA, en intelligence artificielle, qui justement s'est fait un petit peu remarquer récemment parce qu'il s'est fait ban def de Twitch, mais le ban a été levé. Voilà. Et puis quelqu'un me dit, mais qui est le monsieur à gauche de l'image? Eh bien, tout à gauche, donc tout à gauche, 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 eh bien c'est un beau gosse. Regardez là, la finesse de ses traits, regardez la lumière sur le front, qui brille comme un phare dans la nuit. Regardez ses petits yeux coquins, hein, voilà, et ce nez volontaire, voilà, et ces tempes grisonnantes qui sont signes de sagesse, bien sûr. Voilà, c'est un beau gosse, j'ai oublié son nom par contre. Futur président. Bien sûr. Voilà. Ah, est-ce que je me fais un petit café? 10h30, je vous quitte dans une heure. Ouais, petit café. Ok. Alors, Pierre-Yves me dit, Defend Intelligence qu'on reçoit ce soir, c'est surtout un spécialiste de la protection des données privées. Tu vas devenir parano, Sam. Oui, c'est vrai. Il nous a déjà annoncé, donc Yanis Defend Intelligence, ce soir, qu'il allait, avec notre accord, Arnaud, Valérie, Thomas et moi, nous pirater nos téléphones. Le garçon avec les lunettes, là, celui de gauche, parce que Thomas a les lunettes aussi, Yanis, il va pirater en 2 minutes. Je vais pirater tous vos téléphones, voilà, avec notre accord. Et il va, tout ça pour nous sensibiliser, nous et vous, au fait de, notamment dans les transports en commun, de, je sais plus quoi, fermer le truc, là, le Bluetooth, je sais plus quoi, enfin, ouais, voilà. Voilà, avec un petit boîtier. Ouais. Donc, j'ai dit Yanis, non c'est Anis, pardon. Merci Psygoulet. Et il a une chaîne YouTube aussi. Il va faire ça en live, ouais, exactement. Donc j'ai juste prévenu les invités de s'ils ont des photos compromettantes dans leur téléphone de les supprimer. Voilà, pour que. Voilà. Oui, genre, voilà. Pardon. Hop. Et en plus, il est drôle. Ouf, me dit Ronan. Cool. Nefertesis, merci pour l'abonnement offert à la commu. C'est adorable. Oui, j'ai ramené du nougat de Montélimar. Et tu vas à Montélimar, tu n'emmènes pas de nougat. T'as raté ta vie, quoi. Hein. Les amis, regardez, on parle de la France qui ne fait plus de bébés, moins de bébés dans la Croix, dans le Figaro. Avec peut-être une réforme du congé parental, nous annonce les Échos. L'Évangile selon Ravier. C'est Alain Raymond dans la Croix qui se moque d'un élu reconquête du parti d'Éric Zemmour. La question, est-ce que les supporters de foot, les ultras, ont trop de pouvoir dans les clubs actuellement? Et puis un magnifique dossier, c'est à quoi qu'il arrive, je vous le lirai ce matin, sur le rapport entre le sport et la santé que je trouve vraiment très très bien. Tout ça après une petite pause café. Je vais m'attraper 2-3 bonbons aussi. Je vous mets 2 minutes de musique pour les abonnés. Petite pub pour ceux, ça va me faire plein de sous, comme ça je vais enfin payer l'impôt sur la fortune. Je vais vous mettre qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique? Je vais vous mettre est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est un petit peu agressif. Ça aussi. ça aussi. Ah, j'aime bien ça. Ok, on se retrouve dans 2 minutes avec un petit café. Hydratez-vous. Voilà, hydratez-vous, c'est très important l'hydratation. À tout de suite, bande de belles personnes. Et voilà, on a choisi des articles notamment sur le sport et la santé. Là, c'est vachement intéressant. À tout de suite, j'arrive. Chou. Bon. Est-ce que je vous ai donné envie de faire des bébés là, à l'instant là, parce que bon, c'est ma mission ce matin. Voilà, ça, la France ne fait plus assez de bébés. Et donc là, d'une façon assez subtile, je viens d'essayer de vous inciter à repeupler la France. Voilà, je viens d'en faire 5, me dit Naboy, je dis bravo. Ce que veut Naboy, si tu viens de faire 5 bébés, à l'instant, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es une punaise de lit, puisque c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le dossier du Parisien, que les punaises de lit pouvaient faire 5 bébés par jour. Donc désolé, Naboy, mais a priori, tu sembles être une punaise de lit. L'argent des contribuables vient d'offrir un abonnement à la communauté. Merci à toi, Pelnoff. Merci beaucoup pour le 5e mois d'abonnement. Triple bonus. Joli pseudo. Merci pour ce soutien. Ainsi que Filoutre. Merci beaucoup. Nefertesis, encore merci pour l'abonnement offert à la commu. Alors, la France est en panne de bébés. À propos de bébés ou de petits bons hommes, sachez que ce week-end, je suis tout seul avec Solal, mon petit dernier. Malo part avec sa maman en week-end. Poula, il y a Eden Blaster qui vient de régaler d'une puissance. Hugo, merci pour les 10 abonnements offerts à la commu. Et donc il y a mon Malo qui part avec sa maman en week-end. Et moi j'ai Solal, voilà. Sauf que j'avais calé plein de trucs demain, mais c'est pas grave, je vais l'emmener partout. C'est-à-dire que Solal, demain matin, il va être avec moi ici à régler les lumières sur Samplay avec Olivier et avec Joe. Ensuite je l'emmène à la radio des Restos du Cœur avec Bruno Guillon, voilà. Et le soir, j'ai une petite soirée, petite teuf, moitié teuf, moitié boulot, voilà. Et je vais emmener Solal. Et donc, il va vivre sa première teuf. On va se mettre sur le toit. On va se faire une soirée. On va tout casser avec Solal, qui a 3 ans, je le rappelle. Ça va être énorme. Ça va être tout pump it up, voilà. Je ne sais pas si les enfants sont autorisés, je ne vais pas poser la question, je vais débarquer avec lui. Voilà. On va retourner le dance floor. Non, mais en vrai, je me réjouis de cette petite fiesta avec mon petit chouchou. Allez, c'est parti, puisqu'on parle de petit chouchou, la France en panne de bébés, nous dit Lacroix. Bon, ça fait un moment qu'on le sait, mais ça s'aggrave en fait, ça se confirme. La natalité connaît une baisse presque continue en fait en France. Depuis 2011 quand même, selon les chiffres de l'INSEE qui ont été publiés aujourd'hui, c'est un article qui date d'hier, vous voyez, c'est tout neuf, c'est tout frais. Une tendance qui inquiète les démographes. Alors pourquoi? Parce que première question d'abord, comme le dit Néo à l'instant, aggrave, est-ce que c'est vraiment grave, docteur, hein? Est-ce que c'est grave? Pourquoi certains s'inquiètent? Édito, signé Isabelle de Golmine dans La Croix. Les Français ne font donc pas assez d'enfants. Les démographes s'interrogent sur cette tendance qui rapproche notre pays des autres nations européennes. Vous savez que longtemps on a été le champion en Europe pour les bébés. Il y a un taux de fécondité des femmes en France qui était vraiment très 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 supérieur à celui des voisins européens. On avait ça, notamment, on partageait ça avec l'Irlande notamment. Et alors donc ça baisse, mais on reste quand même parmi les meilleurs. Mais par contre c'est en baisse. Donc les démographes constatent que ça se rapproche des autres nations européennes. Les économistes s'affolent. Alors, manifestement, ce sont les économistes qui sont inquiets. Les bras vont manquer à l'avenir dans un système notamment de protection sociale qui reste largement fondé sur une solidarité intergénérationnelle. Bon bah là, désolé, on parle des retraites. On a un système de retraite qui n'est pas un système par capitalisation, même si certains en rêvent. Regardez. Petit coup d'œil en direction des banques, petit coup d'œil en direction des compagnies d'assurance. Donc on a un système non pas par capitalisation, mais par répartition. C'est-à-dire que quand vous cotisez, quand vous travaillez, que vous cotisez pour la retraite, vous cotisez pas pour votre retraite. Ta-da-da-da. Vous cotisez pour les gens qui sont actuellement à la retraite. Donc j'espère que, un, vous êtes nombreux, deux, que vous bossez beaucoup, comme ça, quand je vais prendre ma retraite, je vais me régaler avec vos sous. Merci. C'est la solidarité. De même que moi, je cotise actuellement pour les gens qui sont actuellement en retraite, notamment mon papa. Donc évidemment, s'il y a moins d'enfants, ben, il y a moins de travailleurs, il y a moins de salariés. Et donc, à un moment, à un instant T, quand les générations d'avant ont fait plus d'enfants, ben, forcément, il y a un déficit entre le nombre de personnes qui sont à la retraite et le nombre de personnes qui peuvent cotiser. Donc ça c'est le constat, hein. On a un système de protection sociale qui reste largement fondé sur une solidarité entre les générations. Sauf, bah oui, qu'on ne fait pas d'enfants pour sauver un système économique. Qui va faire un enfant pour sauver le système de retraite français? Qui va faire un enfant pour le bien du pays? En vrai, personne, Et la croix le dit, avoir un enfant reste, et ça doit rester comme ça d'ailleurs, l'un des grands événements personnels de la vie. Surtout le désir d'enfant, alors ça c'est intéressant, le désir d'enfant ne s'est pas tari dans notre société, à l'exception de ceux qui sont assez rares encore aujourd'hui, qui y renoncent pour des raisons philosophiques ou écologiques. Ça existe, mais ce n'est pas un fait majoritaire. Donc quand on demande aux Français s'ils veulent avoir des enfants, majoritairement la réponse est oui. Le problème, c'est que, on va le voir plus tard dans les articles qu'on lit ce matin, les Français ont moins d'enfants. Voilà, oh là, ça régale ce matin. Merci Cédelf. Merci pour les 5 amendements offerts à la commune. Les enfants, les Français ont moins d'enfants qu'ils aimeraient en avoir. Il y a une petite nuance qu'il faut vraiment comprendre et qui va nous permettre de comprendre des trucs importants ce matin. Le couple se montre de plus en plus hésitant, retarde de plus en plus le projet, et la Croix se pose la question, ne faudra-t-il pas s'interroger sur les raisons profondes de cette hésitation et se demander si notre système d'aide à la famille correspond aux nouvelles conditions de vie des jeunes adultes. Hugo Eden Blaster qui régale et dit également pour vous. Je relis cette phrase parce qu'elle est essentielle. Hugo, vraiment merci. Il faut peut-être se demander si notre système d'aide à la famille correspond aux nouvelles conditions de vie des jeunes adultes. Pour les femmes, l'arrivée d'un bébé continue de freiner la promotion professionnelle. Les évolutions de carrière où beaucoup se jouent dans les premières années ne sont pas adaptées à une vie de famille. Les rythmes de travail se calent mal sur les systèmes de garde. Le prix des logements, les inquiétudes tenant au système éducatif, le coût d'un enfant jusqu'à l'âge adulte sont autant d'obstacles qui peuvent faire hésiter. Vous voyez, là, on est sur la piste d'un truc. Alors, peut-être que la théorie est fausse, mais ce que nous disent les journaux ce matin, c'est que si les Français ont moins d'enfants qu'avant, alors qu'ils continuent à avoir envie d'enfants, c'est peut-être parce qu'en fait, socialement, la société, le rythme de travail, les conditions de travail, le prix des logements ne donnent pas forcément très, 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 très envie. Sandrine, merci beaucoup pour le 25e mois d'abonnement et le gentil message d'Adi Gaga, qui est donc le frère de Lady Gaga, tout le monde l'a compris, merci pour le 4e mois d'abonnement, ou son père peut-être. Enfin, la très forte augmentation du nombre de familles monoparentales devrait conduire à beaucoup plus soutenir les femmes seules aussi, avec enfants. Les modes de vie des familles ont été bouleversés depuis 50 ans et il n'est pas sûr que l'État, que les entreprises, les municipalités et notre système social l'aient vraiment pris en compte. Avoir des enfants est un rêve, mais dans la réalité, cela reste encore trop souvent une course de haies quotidienne. Lisons, et puis après je vous lirai bien sûr. Pourquoi les Français font moins de bébés? Donc dossier de la Croix, le constat est sans appel, la natalité baisse de manière continue depuis 2011, on va donner quelques chiffres quand même. L'indicateur conjoncturel de fécondité, ce qu'on appelle parfois le taux de fécondité des femmes en France, est aujourd'hui de près de 1,8 enfants par femme en 2022, contre 1,84 en 2021. Il n'y a pas si longtemps, on était à 2,1 et au-delà, 2,1 étant le chiffre à atteindre pour avoir le renouvellement complet d'une génération. Quant à l'âge moyen de la maternité, il continue d'augmenter puisqu'il est de 31 ans aujourd'hui contre 29,4 il y a 20 ans. Pourquoi les Français font-ils moins de bébés? La question taraude les démographes qui s'avouent démunis en fait pour comprendre les ressorts du désir d'enfant, faute d'enquête solide. Les démographes disent on n'a pas d'enquête sociologique, scientifique assez poussée pour bien comprendre la baisse du taux de fécondité en France. Les spécialistes donc sont réduits à quoi? À faire des hypothèses. Par exemple, Didier Breton, qui est chercheur à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, estime que la baisse de la fécondité s'explique selon lui par le fait qu'un certain nombre de couples renoncent à avoir des enfants. Oui, bien sûr, mais surtout parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne pas avoir de deuxième. Et surtout, de troisième. La baisse du nombre d'enfants est en partie liée Merci Delphine. Tout ça, tu l'auras en replay Delphine. Et merci, je crois, pour le sub. Pardon, petit message perso. La baisse du nombre d'enfants est en partie liée au recul de l'âge de la maternité, dû à l'allongement des études, les mises en couple plus tardives, le désir d'être stabilisé dans la vie professionnelle également, avant de devenir parent. Les femmes font des enfants de plus en plus tard, tellement tard qu'elles en font moins, observe aussi le sociologue Julien Damon. Le contexte sanitaire, économique, écologique pèse également dans la décision des couples. Le Covid, l'inflation, la crise climatique, le conflit en Ukraine renforcent l'inquiétude face à l'avenir, poursuit le sociologue. Même si le désir d'enfant reste quelque chose de complexe à analyser, merci beaucoup de dollars pour le soutien, on peut considérer que cet environnement n'est pas très favorable à la natalité. Walm, merci pour le soutien. Le dérèglement climatique en particulier semble une préoccupation majeure, et je pense que vous en parlez dans le chat, chez les jeunes qui affirment parfois ne pas vouloir d'enfants pour préserver la planète. C'est un avis que je vois très souvent exprimé ici. L'éco-anxiété, dit Didier Breton, le chercheur, ça n'est pas nouveau. En 2005, alors ça c'est intéressant, ça c'est une info que je n'avais pas avant ça. En 2005, lors d'un congrès mondial sur les populations, 25 à 30% des jeunes européens disaient ne pas vouloir d'enfants. 25 à 30%, c'est énorme. 25 à 30% des jeunes européens disaient qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Or, un certain nombre de ces jeunes, après, ont eu des enfants. Ce qui montre que les déclarations à 19 et 20 ans n'ont pas forcément un caractère prédictif. Le constat que font certains chercheurs, c'est que dans la population qui dit « Ah, moi, je ne veux pas d'enfants, notamment pour des raisons écologiques », souvent, ce sont des gens qui ne sont pas encore en âge d'avoir des enfants, des gens un petit peu jeunes, et qui souvent changent d'avis après. Voilà. Conclusion de l'article, et après je vous lis. Un scénario sous les 1,7 enfants par femme en France est un scénario plausible. Si tel était le cas, la pyramide des âges se creuserait encore davantage avec des répercussions sur les équilibres intergénérationnels, le marché de l'emploi, l'école, le système de santé et bien sûr les retraites. Cyrel, merci pour l'abonnement offert à la commu. Petrugios, merci pour ce 18e mois d'abonnement. Et Walm, encore merci. Alors, je vous lis maintenant et après on ira voir ce qu'en dit le Figaro aussi. Qui est un peu dans la même analyse d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, de tout à fait, mais tu as raison. Il y a Ligiat qui dit « J'ai beaucoup de mal avec ce que dit l'article. » Ils disent qu'il n'y a pas d'études sérieuses réelles. De l'autre, ils font des constats. Oui, c'est des hypothèses. Les scientifiques disent qu'on est réduit aux hypothèses parce qu'on manque d'enquêtes sérieuses. Donc, ils sont en mode hypothèse. Après, elles peuvent être confirmées ou infirmées. Quoi. Témoignage de Kikil dans le chat. « Je rêve d'avoir des gamins. J'ai 32 ans, mais on a besoin de nos deux salaires pour vivre comme on le souhaite. C'est difficile d'envisager que nos enfants soit majoritairement éduqué par des inconnus, crèche, nounou, c'est fou qu'on ne favorise pas plus la prise en charge des enfants par les parents qui pourraient être rémunérés pour le faire correctement. Lord of Tempest, je pense qu'il faut d'abord réparer le monde avant de jeter d'autres enfants dans le broyeur. Moi je dis, parce que je suis un incorrigible optimiste, que peut-être que ces enfants vont être ceux qui, plus que d'autres corps, vont résoudre ces problèmes. C'est ce que dit Matt à l'instant dans le chat, des enfants bien éduqués peuvent au contraire faciliter la transition écologique. Bien sûr. Marie Abeljac dit quand l'article dit avoir des enfants, est-ce qu'il prend en compte l'adoption ou pas? Bien sûr. Parce que Marie me dit un enfant biologique, pour moi, c'est hors de question, je me tournerai vers l'adoption. Noir, j'avoue, ça fait longtemps qu'on hésite pour un deuxième enfant. Voilà, je suis artiste illustratrice, me dit Teaspoon. Art, c'est très compliqué de penser carrière et enfant à la fois. Voilà. Et là, on est dans la confirmation qu'on est dans une société, une organisation du travail pour les hommes et encore plus pour les femmes qui peut-être empêchent justement, freinent le désir d'enfant. « Alors, Ariane et d'autres, vous êtes plusieurs à vous demander si l'article évoque la question de la hausse de l'infertilité, de la baisse de la fertilité. Alors, ce n'est pas évoqué dans l'article, mais je pense que ça manque. Peut-être que ça aurait dû être présent dans le dossier. Ouais. On en revient à un problème systémique, dit Ron Poyler. On attend d'avoir une bonne situation pour faire des enfants. Salaire trop bas, difficulté d'accession au logement, pas de place en crèche. Moi, je pense que c'est effectivement une partie de l'explication, voilà, d'une société qui crée des conditions de vie et de travail pour les parents qui font qu'en fait, ils hésitent, voire ils ne font pas, quoi. Mais qu'une partie seulement. Il y a aussi, alors c'est pas du tout évoqué dans ces articles, dans La Croix et Le Figaro, c'est dommage d'ailleurs, mais peut-être un changement au niveau des valeurs de notre société, c'est-à-dire qu'à une époque pas si lointaine, avoir 3, 4 enfants ou plus, c'était un truc courant, classique, normal, souhaitable, peut-être même comme une norme, et que cette norme en fait elle a changé aussi. Et puis aussi la réalisation personnelle qui fait que cet enfant on l'a plus tard. Chad So me dit dans le chat, personnellement j'ai vu des mamans ne pas avoir fini leurs études avant d'avoir des enfants, du coup moi j'ai préféré finir les études, attendre d'être stable dans ma profession et profiter aussi pour voyager avant d'avoir mes enfants. C'est mignon. Il y a un Neoko qui dit, j'ai 32 ans, j'ai réussi par je ne sais quel miracle à vivre la vie dont je rêvais malgré ce monde capitaliste, je ne veux pas gâcher ça avec un enfant. Alors ça aussi c'est pas évoqué dans l'article, mais le fait que aujourd'hui plus qu'avant on veut se réaliser personnellement, peut-être que ça peut freiner aussi le fait d'avoir envie ou pas de voir les enfants. Et toi, Samuel? Oh, bah, moi, ce serait une arche de Noé, moi, si je m'écoutais, moi, à la maison. Lisons aussi l'article de. Il y a Cyril qui régale. Merci, Cyril, pour les abonnements que tu offres à la commune. Article du Figaro sur le même sujet, avec un angle qui est un peu le même. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Les problèmes de mode de garde, voilà, des choses un peu très prosaïques aussi, hein, sont cités comme la première difficulté devant les questions financières. Il y a une enquête qui a été commandée à l'IFOP en juillet 2023, donc c'est très récent, sur le sujet. Pourquoi les Français? Quand on demande aux Français combien d'enfants ils veulent avoir, les Français répondent, là en juillet dernier, ils répondent, on veut avoir 2,39 enfants. Voilà. Vous avez compris que c'est une moyenne, personne ne veut réellement 2,39 enfants. C'est-à-dire, tu ne veux pas 2 enfants et 0,39 d'un enfant. Hein, c'est une moyenne, je pense que vous l'avez compris, mais on ne sait jamais. Donc, les Français, on leur demande, combien vous voulez d'enfants? Ils répondent 2,39. Pourtant, ils en ont moins, puisqu'on est à un taux de fécondité de 1,8. Voilà. Aha ! Bon. Alors, il y a un truc intéressant. Donc, on voit que ce n'est pas seulement le désir d'enfant qui est problématique. Alors, peut-être que 2,39, c'est moins qu'avant, quand on avait 3 à 4 enfants. Mais, donc, il y a un désir d'enfant. Mais il y a un désir d'enfant, et on ne va pas au bout de ce désir d'enfant. On veut 2,39 enfants. Et on en fait 1,8. Aha ! Là, j'ai mis le doigt sur un truc. Faut que j'arrête de mettre mes doigts partout parce que ça va finir par me jouer des tours. Alors, du coup, l'enquête est allée plus loin et cette étude révèle que plus d'un tiers des Français, des parents interrogés de moins de 50 ans, merci pour Samuel, a renoncé à avoir un enfant ou en avoir un de plus s'ils étaient parents. Plus d'un tiers des adultes de moins de 50 ans ont déjà renoncé à avoir un enfant ou en avoir un de plus malgré le souhait d'en avoir. Les problèmes de mode de garde des jeunes enfants, leur coût, leur absence, arrivent en premier sur l'ensemble des raisons citées pour 47% des sondés. Comment on va le garder, comment on va s'en occuper. Après, vous avez les difficultés financières ou l'emploi, 44%. Voilà. L'impact de la crise climatique, dont on parle beaucoup, hein, notamment ici, n'est évoqué qu'en cinquième position. Donc c'est évoqué, mais vous voyez que ce n'est pas la principale raison. C'est un facteur de blocage qui a sans doute été surévalué, dit un spécialiste. Ce discours émane avant tout des plus jeunes, qui ne sont pas d'ailleurs souvent encore prêts à avoir des enfants. Réponse inattendue mais pourtant évidente, 39% des personnes interrogées pointent une autre raison, principalement le fait d'être célibataire ou sans conjoint. Hein. Un pourcentage qui reflète la montée de la solitude dans notre société. Ça aussi, c'est un fait important. Une politique familiale plus généreuse, plus adaptée aux besoins des familles pourrait-elle changer la donne? Près de la moitié des sondés, 48%, qui ont renoncé à faire un enfant, estiment que la possibilité de prendre un congé parental, un truc un peu sympa, un truc un peu confortable, aurait modifié leur décision. Ah ! Ah ! Vous voyez ? C'est pas que des histoires philosophiques, écologiques, mais dans quel monde vivons-nous, ou d'accomplissement personnel, c'est aussi parce que finalement, l'organisation du travail, de la société, fait que c'est pas easy, quoi. Et, quel enchaînement ? Eh bien justement, j'apprends dans les échos que le gouvernement réfléchit, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, à un nouveau congé parental. La refonte du congé parental, évoquée cet été, ne figure pas dans le projet de budget qui a été présenté cette semaine, mais le gouvernement n'exclut pas de la concrétiser lors du débat parlementaire en cet automne. La chute des naissances encore constatée en France au premier semestre pourrait donc peut-être décider le gouvernement à pousser les feux sur la réforme du congé parental. Une réforme poussée par la ministre des Solidarités et des Familles, qui s'appelle Aurore Berger, qui est la nouvelle ministre sur ce sujet. À peine avait-elle été nommée cet été, ça c'est vrai, qu'elle avait annoncé vouloir un congé parental plus court, mais mieux indemnisé, ce qui avait provoqué de la colère à gauche. Donc, c'est quoi cette réforme? Ce serait un congé réservé aux parents d'enfants de moins de 3 ans, distinct du congé maternité ou paternité, hein. C'est pas le congé mat, c'est le congé parental, c'est autre chose, qui peut s'étendre aujourd'hui sur 3 années le congé parental, et à condition d'être partagé entre les parents. Cette fois, il serait mieux indemnisé, donc aujourd'hui, ce qui existe, c'est un congé parental sur 3 ans, s'il est partagé entre les deux, et qui est indemnisé à hauteur de 430 € par mois pour les parents qui s'arrêtent complètement de travailler. Moi, en vrai, être papa au foyer, j'aurais kiffé. Moi, je cache pas que j'adore les enfants, et notamment les miens. Et papa au foyer, ok, cool. Bon. Sauf que 430 € par mois, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, notamment parce que j'ai pris un gros emprunt à la banque, comme plein de gens, pour payer l'appart, quoi. Donc non. Alors, réforme. Pour Berger, une réforme doit laisser un vrai choix aux familles. Il s'agit d'éviter que des parents renoncent à faire une pause professionnelle pour s'occuper de leur enfant, faute de pouvoir encaisser une perte de revenus importante pendant plusieurs mois. L'exécutif réfléchit, selon les infos des Échos, à proposer un congé de 4 mois pour chaque parent. Donc, ce n'est pas 3 ans, c'est 8 mois max, mais mieux indemnisé. De quoi permettre aux parents qui lèvent le pied l'un après l'autre d'être au plus près de leur bébé, c'est chou, je trouve, pendant une bonne partie de sa première année, puisque vous avez le congé maternité. Après le congé maternité, la maman est censée reprendre le travail, mais là interviendrait ce congé parental nouvelle formule de 2 fois 4 mois, 4 mois pour la maman, 4 mois pour le papa, ou pour les deux mamans, ou pour les deux papas, bien sûr, hein. Ça marche pareil, mais mieux indemnisé, à hauteur de combien? Plutôt que recevoir une indemnité forfaitaire de, comme on l'a dit, 430 € par mois, les parents seraient indemnisés proportionnellement à leurs revenus, comme en cas d'arrêt maladie. Ils pourraient toucher 50% de leur salaire dans la limite d'un plafond. Eh, pardon, 50% du salaire. Alors, moi, par exemple, je vais prendre mon cas personnel, on va faire un calcul. Donc, je prends mon salaire mensuel, question pour un champion. Donc, 250 000 € par mois. 250 000 euros net, hein, pas brut. Sinon, c'est vraiment c'est compliqué. Donc, 250 000 par mois divisé par deux, bah, ça fait 125 000 euros. Et là, moi, ça passe. Là, je peux m'occuper d'un enfant. Ah, dans la limite d'un plafond. Ah, zut. Non, bah, c'est plafonné, en fait. Donc, pour les gens du premier degré, je ne gagne pas 250 000 euros par mois, même si j'aimerais beaucoup. Et surtout, ça, c'était juste pour dire une vanne pourrie, mais en fait, ce serait plafonné, quoi. Mais quand même, ça semble quand même beaucoup plus intéressant que l'ancien système. La question de la réforme du congé parental n'est pas nouvelle. Plusieurs rapports avaient déjà souligné que le congé actuel était de moins en moins utilisé, en fait. Le congé dont je parle, là, qui est 435 euros par mois, là, personne ne le prend, en fait. Le nombre de bénéficiaires du congé parental est ainsi passé de plus de 520 000 en 2011 à quelque 220 000 10 ans plus tard. Il y a très peu de gens qui le prennent. Voilà. Je crois que c'est le président François Hollande qui l'avait réformé, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Une meilleure indemnisation pourrait encourager davantage de pères et de mères à sauter le pas. Reste à savoir combien coûterait une telle réforme. Bon, évidemment, ça aura un coût. Voilà. Mieux indemnisé, mais moins longtemps. Vous en pensez quoi ? Ouais, c'est Hollande. C'est Hollande qui a changé ça. Moi, en vrai, ça dépend du plafond, mais moi, ça a pu me faire réfléchir, par exemple. J'aurais kiffé passer 4 mois à la maison à m'occuper des petits bouts, quoi. Vous en pensez quoi ? 50% de son salaire par mois, c'est rien du tout, me dit Malov. Ben, ça dépend, mais ça peut quand même, hein. Ça peut être pas mal, hein, si t'as un bon salaire. Alors après, ça dépend du plafond, comme dit Serious Words. Lulu Gratte, merci beaucoup, moi aussi je t'aime fort. Merci pour le 11e mois d'abonnement. Vous en pensez quoi de cette réforme éventuelle ? C'est mieux que rien ? Évidemment, 50% de rien, ça fait pas grand-chose. Ouais. C'est vrai que si t'as la chance d'avoir eu un bon début de carrière professionnelle avec un salaire de cadre, par exemple, c'est que 4 mois en plus. Ça peut le faire, quand même, de passer 4 mois un peu de rêve à pouponner. Parce que c'est un kiff, quand même. Hein. Tu dors plus, mais c'est super. Fabien, merci pour le 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je pense qu'au bout de 8 mois, t'en fais quoi du gamin ? Bah, comme tous les autres parents, Poloche sans gêne, tu le mets en crèche. Ou avec une nounou, c'est tout comme tout le monde, hein. Tu vas pas non plus être payé 10 000 euros toute ta vie pour t'occuper des gamins, hein. À un moment, même eux, ils vont te mettre dehors, hein. Bon, tu refais un enfant. Ouais, j'ai rendez-vous à 11h30. À 11h30, bon, j'ai réservé un taxi. Attends, je vérifie. J'ai un taxi qui m'emmène dans un tournage très très secret. Avec la crème. Yes, me la racontent des streamers, des youtubeurs français. Je ne peux pas vous en dire plus, ça va être une dinguerie. Ok, il me reste... On est bien, 22 minutes. Comme le dit Yflin dans le chat, ça laisse 22 minutes pour faire un enfant. Pour certains, ce serait trop de temps. Ok, d'accord, vous êtes chaud. Chaud comme la braise. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Alain Raymond, qui a une très belle plume, qui écrit dans La Croix un billet tous les jours, un éditorial sur... Ouais, j'ai pas de nouvelles du PC gaming, MMG. Mal parti, j'ai pas de mail, j'ai pas de SMS. Pour où il est ce PC là, hein. Bon, évidemment, la tueur. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais regarder. Je relance pour le PC gaming, t'as raison. Excusez-moi. J'attends la livraison de mon PC de gaming pour devenir un gamer. Et j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Dopinou, je vais être papa pour la deuxième fois dans 15 jours max. C'est vrai que ça peut être pas mal. Dopinou, merci pour le 3e mois d'abonnement. Je vous souhaite plein de bonheur. Mini Loutre, merci pour le 14e mois d'abonnement. et félicitations pour ce nouveau taf. Ça, c'est top. Alors, donc, Alain Raymond, tous les jours, un billet dans la Croix pour parler de l'actualité avec une très belle plume. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, d'où le titre de cet édito, L'Évangile selon Ravier. Stéphane Ravier, donc membre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc, d'après ce que je crois, il a été RN et maintenant il est chez Éric Zemmour. A une lecture très personnelle de l'Évangile, dit Alain Raymond. Je vous rappelle que La Croix est un journal inspiration, valeur chrétienne catholique. Donc l'Évangile, ils connaissent. Donc lecture très personnelle de l'Évangile. En désaccord avec les propos du pape François à Marseille sur l'accueil des migrants, monsieur Stéphane Ravier vient de faire cette forte déclaration. L'Évangile nous invite à aimer notre prochain, hein, c'est un message de base de l'Évangile, nous invite à aimer notre prochain, mais, dit monsieur Ravier, il n'est nullement précisé qu'on doit l'aimer ici, en France. Là, on va se régaler. Il est vrai, dit Alain Raymond, qu'il n'est nulle part fait mention de la France, ni même de Marseille, dans les évangiles, c'est un fait irréfutable. Maintenant, si on comprend bien la subtile pensée de Stéphane Ravier, dont les talents d'exégète nous avaient jusqu'ici échappé, ce qui serait épatant, c'est un prochain qui ne soit pas proche. Hein? Il faudrait qu'on puisse aimer un prochain, mais qui ne soit pas proche. Un prochain du genre lointain, vous voyez? Un prochain qui habite très loin, très loin. Disons, sur la planète Mars, par exemple. Il se régale, Alain Raymond. Ce prochain-là, qui vivrait des millions de kilomètres, ok, d'accord, il est prêt à l'aimer. Bon, Jésus n'a rien dit non plus de la planète Mars, ni d'un prochain qui habiterait sur la planète Mars, mais il aurait très bien pu, si on lui avait seulement posé la question. Mais on ne lui a pas posé la question. Aime ton prochain comme toi-même, à condition qu'il habite sur la planète Mars. Voilà, en réalité, ce que Jésus a voulu dire. En tout cas, pas en France, pas chez nous. Parce que là, sinon, c'est n'importe quoi. Alors que sur la planète Mars, mais aussi, pourquoi pas sur Jupiter, Jupiter, ce serait très bien aussi. Voilà. Donc, bon, c'est un peu facile, mais ça m'a fait beaucoup rire. Donc, on a Stéphane Ravier, donc le élu du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui est OK avec le message de l'Évangile, il faut aimer son prochain comme soi-même, mais surtout si ce prochain est lointain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Ravier? Pas entendu, dit Valentina. Alors, c'est pas une blague, monsieur Ravier, il a dit « L'Évangile nous invite à aimer notre prochain, mais il n'est nullement précisé qu'on doit l'aimer ici, en France. » Voilà. Donc, c'est pas inventé, il l'a vraiment dit. Voilà. Ah. Cotoras, j'ai la ref. Cotoras écrit « Un champion du monde, le Ravier. » Il fait quelque chose le mercredi soir? J'ai la ref. Voilà. Bon, c'était juste un petit sourire, un petit plaisir en passant. Il me reste encore un petit peu de temps. Je voulais vous parler aussi. Alors, je ne vous en aurais pas parlé comme ça naturellement, mais c'est, il se trouve que comment, Arnaud de sa mère, qui est notre invité ce soir à 20h dans l'Hebdo Étienne sur cette chaîne Twitch, eh bien, veut en parler et veut dénoncer le rôle grandissant des supporters et surtout des ultras dans les clubs de football. Est-ce que les ultras ont pris trop de pouvoir au sein des clubs? C'est la question que se pose d'ailleurs aux Parisiens. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, ces groupes occupent une place complexe, mais centrale au sein des clubs. Les incidents en tribune, en coulisses, ces dernières semaines sont venus le rappeler. Ce mois-ci, trois chercheurs français se sont posé une question un poil provocatrice dans la revue Sports Economics Review. Les fans de foot, et notamment les ultras, devraient-ils être payés pour aller au stade? Les fans de foot, notamment les ultras, devraient-ils être payés pour venir au stade? Drôle de réflexion, alors que surgissent régulièrement dans l'actualité des incidents mettant en cause l'exemplarité de certains supporters. Récemment, il y a eu des chants homophobes. Le verdict de cette étude est passé inaperçu, et donc le Parisien nous en parle. Après moult calculs savants, ces scientifiques sont arrivés à la conclusion que oui, sous certaines conditions, les clubs y gagneraient sportivement, économiquement, à payer les supporters, et notamment les ultras, pour venir voir les matchs. Célébrés par tous quand les victoires s'enchaînent, la culture des ultras représente en effet un outil marketing précieux pour les clubs, la ligue, les diffuseurs. Les images sont belles, la communion paraît éternelle, les drapeaux, les tifos, la fête. Message de mon PC. Il est en route, mais moi, à 11h30, je m'en vais. Ok. Il est en route. Il est en route pour quand le PC? Il est en route pour demain, pour la France, pour Mars, pour Jupiter. Un peu... Parce que moi je m'en vais après, hein, j'ai un tournage. Seulement quand ça déraille, quand le climat se tend, la même panique saisit les décideurs. Est-ce qu'on a finalement concédé trop de pouvoir aux ultras? Les ultras sont devenus au 21e un 12e homme incontournable. On vient au stade pour les voir. Entre 2011 et 2016, la direction du PSG, par exemple, a tenté de s'en passer, mais ils ont bien vu que l'ambiance avait disparu. L'enjeu est là, est trouver un cadre en limitant les dérives. Le dilemme n'est pas nouveau. Par exemple, la direction de l'OM, dans les années 80, avec Bernard Tapie, avait confié à ses collectifs d'ultra la gestion de ces 30 000 sièges du Vélodrome, pratique aujourd'hui révolue, mais qui traduit le poids politique, le poids parfois électoral de ce public. Et là, dans l'Humanité, on a une interview assez intéressante, je trouve, d'un chercheur, d'un sociologue qui s'appelle Nicolas Ourcade, sur le nécessaire travail d'évolution des mentalités que doivent faire les supporters de football et notamment les ultras. Les supporters qui ont refait parler d'eux ces derniers jours avec des chants homophobes lors du classique entre le PSG et l'OM, également avec des menaces envers la direction du club marseillais. Menaces de supporters de l'OM à l'encontre de l'équipe dirigeante pendant une réunion chants homophobes au Parc des Princes. Nicolas Ourcade, professeur agrégé de sciences sociales, nous livre son analyse de ces incidents. Lors du classique entre le PSG et l'OM, le classico, des chants homophobes ont donc été repris par les deux virages du Parc des Princes. Est-ce qu'on peut parler d'amplification de ce phénomène, le champ homophobe? Non, réponse au chercheur, qui est le prof de Xomine à Centrale, d'ailleurs c'est drôle. Non, il n'y a pas d'amplification, c'est un phénomène de permanence depuis des décennies. Pour mieux comprendre, il faut situer historiquement les insultes dans les stades de foot. Dans les années 80, avec l'émergence de groupes de jeunes supporters qui cherchaient par tous les moyens à discréditer l'adversaire, les insultes se sont radicalisées dans les années 80. Par des slogans très injurieux qui longtemps étaient présentés comme du folklore. Dans les années 90, il y a eu une première prise de conscience que certains slogans ne relevaient pas vraiment du folklore mais du racisme, ce qui a mené à l'arrêt de certains registres insultants dans les tribunes. Mais pour les chants homophobes, cela fait qu'une quinzaine d'années seulement qu'ils sont combattus. La société a changé. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire comprendre aux supporters que du fait de l'évolution de la sensibilité de la société sur ces questions, ces chants ne sont plus tolérables. C'est un peu un dialogue de sourds, en fait, donc nous dit le chercheur. Les supporters, dit l'Humanité, répondent qu'il n'y a pas d'intention homophobe dans leur chant. Le chercheur répond, il peut y avoir des chants ouvertement homophobes, ça existe en Pologne, avec des banderoles ouvertement anti-homosexuelles. En Serbie, certains supporters ont attaqué des gay pride, par exemple. En France, dit ce chercheur, c'est plus compliqué. Il y a une partie d'homophobie assumée chez certains supporters, mais massivement sont plutôt des individus qui nient la portée discriminatoire de leurs insultes ou n'en voient pas, n'en comprennent pas la dimension homophobe. L'enjeu, c'est de faire comprendre que ce qui a été toléré pendant des années ne l'est plus. Il y a donc tout un travail de pédagogie à réaliser pour que les supporters comprennent et ne puissent plus nier la charge homophobe de certains de leurs slogans. Voilà. Alors, ce chercheur, en fait, il fait montre un peu de compréhension en disant qu'il y a quand même une majorité de ces supporters de foot, de ces ultras, qui, lorsqu'ils brandissent un chant ou des insultes homophobes à destination de leurs adversaires, ne sont pas forcément dans une démarche homophobe et n'en ont pas forcément conscience. Bon, j'entends l'analyse, mais je le trouve quand même pas très sévère, quoi. Pas très sévère, quoi. T'en pensais quoi? C'est le niveau de mon PC. Malheureusement, pas d'heure précise. Il passe récupérer le produit. Il est... Ouais. Ouais. Ok. Pardon, je suis sur le PC là. J'essaie de éventuellement faire l'essai à la concierge. Attends, je donne le code et tout là. Excusez-moi. Je vous le donne pas parce que. Voilà. Vous permettez. Hmm. Parce qu'un PC de gamer, c'est important. Il faut le réceptionner. Voilà. Oh, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alors, bonne nouvelle. C'était un colis informatique, mais c'était pas le PC gaming.
Ouais. Donc voilà.
Voilà. Donc on va pas. C'est pas pour cette nuit, quoi. Mais c'est imminent, hein. Oui, je suis un peu déçu. Oui, j'ai vérifié le nombre de colis, culotte courte, oui. J'ai bien demandé. Hein, voilà. Là, je suis avec mon correspondant. Ouais.
Il a bougé ? Il a bougé, Tintin ?
Je suis un peu déçu. Voilà. En fait, c'est le lecteur de. Pour tout vous dire, c'est le lecteur de disquettes souples. Voilà. Donc voilà pour ce sujet qu'on évoquera ce soir avec Arnaud de sa mère, parce qu'il tenait à en parler dans l'Hebdo Étienne sur le pouvoir grandissant, selon Arnaud, des ultras dans les clubs de foot français. Wanir, merci beaucoup pour le 8e mois d'abonnement. 8e mois et papa depuis 2 semaines. Gros bisous de la communauté, félicitations à toi. Merci Wanir. Voilà. Top, 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 top. Je voulais juste sur le football parce que j'ai vu beaucoup de réactions, je veux pas passer à côté. Ok, non mais c'est moi je suis ouvert au débat. Hein. Il y a deux El Diablo qui dit bon, moi je fais partie d'un groupe d'ultra. C'est trop facile de taper sur nous. Difficile de s'exprimer face à des milliers de personnes contre nous, mais bon c'est comme ça. Mais moi, vous savez, ici c'est un espace de débat et on peut ne pas être d'accord, mais on peut essayer d'en parler aussi. Ouais. Ouais. Je remonte dans le chat pour voir vos commentaires sur ce sujet. Alors, Caradoc, à propos du débat sur avoir un enfant ou pas et sur le PC, écrit c'est quand même mieux qu'un enfant, un PC de gamer. Bon, je ne me prononcerai pas sur ce jugement de valeur. J'étais tellement content, j'étais persuadé que c'était mon gros PC de gamer qui allait arriver. En fait, non. Oui, Ariane Lavrion, on en a parlé, bien sûr, Paradoxe d'Or. Doré, on en a parlé mardi, et on a passé du temps sur ce sujet qui me semble essentiel. Ouais. Nouns nous dit comment on fait pour lire une presse de qualité lorsqu'on est fauché parce que ça coûte de l'argent. Eh bien, la matinée tienne. Ah, nouvelle du PC. Top, ok. Donc le PC de gaming arrive bientôt. Ok. Et pour finir, on va finir en beauté parce que moi je trouve ce dossier qui est paru dans la presse de mercredi, que j'ai pas eu le temps de vous lire mercredi, il est quand même super intéressant sur les rapports très forts, très serrés entre sport et santé. Le sport, médicament universel, cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, dépression, les bénéfices de l'activité physique sont prouvés en prévention, en traitement. En France, et c'est l'intérêt de ce dossier, la population est encore trop peu active, trop sédentaire. Deux facteurs de risque pour la santé. Non seulement, quand vous faites du sport, vous faites du bien à votre corps, ce que vous savez bien sûr, et pour votre santé, pour rester en bonne santé, pour éviter la maladie, même pour guérir plus vite, mais quand vous n'en faites pas, eh bien, à l'inverse, vous abîmez votre santé. Médicament universel, c'est beau quand même. Imaginez que la metformine antidiabétique de référence soit gratuite à Strasbourg, mais coûte 200 euros dans d'autres villes. Ce ne serait pas normal. Ce serait même révoltant, lance Alexandre Fels, qui est adjoint à la santé à la mairie de Strasbourg, président de la maison sport santé de la ville. Pourquoi il utilise cette métaphore? Parce que l'APA, l'activité physique adaptée, thérapeutique non médicamenteuse, reconnue dans certaines maladies chroniques, eh bien, n'est financée que dans la capitale alsacienne. À Strasbourg, il y a ce programme pilote pour rembourser à certains patients l'activité physique adaptée et ça se passe quasiment que là quoi. La région Grand Est et d'autres municipalités du territoire, mais pas au niveau national. La promotion de l'activité physique et sportive décrétée pourtant grande cause nationale en 2024 par Emmanuel Macron dans le cadre des prochains JO, Jeux Olympiques et Paralympiques, va-t-elle faire passer le sport santé à la vitesse supérieure? Le sport santé, le sport même remboursé par la Sécu, eh bien, ça existe un tout petit peu à Strasbourg et dans la région, mais pour l'instant, c'est tout. Le gouvernement devrait faire un pas en avant lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale en annonçant une prise en charge de l'APA dans le domaine du cancer et du diabète. En attendant, l'expérience strasbourgeoise fait toujours figure de référence. Lancée en 2012, vous ne le saviez peut-être pas, mais ça date du début des années 2010, à l'initiative de M. Fels, médecin généraliste convaincu que l'activité physique est un véritable médicament, le dispositif appelé Sport Santé sur ordonnance s'est d'abord adressé aux adultes touchés par une maladie chronique, reconnue ou non en affection longue durée, cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, hypertension artérielle. Puis il a été progressivement étendu aux personnes âgées fragilisées, aux sujets souffrant de troubles psychiatriques, souffrant de Covid long, aux femmes enceintes et aux jeunes mères. Quelques 5000 habitants de la ville ont bénéficié de cette prise en charge, orientée par 500 médecins. Chaque semaine, 1000 personnes aujourd'hui à Strasbourg fréquentent une centaine de créneaux d'activité physique. Par ailleurs, depuis 2014, 1000 enfants ont ainsi intégré un programme de prise en charge de l'obésité et du surpoids. Muni d'une ordonnance, le patient bénéficie donc d'abord d'une séance d'évaluation médico-sportive qui comprend entre autres un test consistant à marcher la plus grande distance possible en 6 minutes, un enseignement d'activité physique adapté lui est ensuite proposé, natation, vélo, marche nordique, basket, yoga, et l'aide à choisir selon ses goûts, sa pathologie, ses habitudes de vie. Gratuit la première année. Le dispositif fait l'objet d'une tarification progressive de 20 à 100 euros par an en fonction des revenus la deuxième année. Voilà. Donc c'est pour les gens, pas tout le monde, ciblés, les gens qui souffrent de certaines affections, eh bien le médecin peut donner une ordonnance pour que la personne mette le pied à l'étrier. Quoi. Voilà. Là, c'est gratuit la première année, puis après, il faut participer un petit peu. Pas mal, non? Ah, 11h30, faut que je vous laisse. Tant pis, on déborde. Ah, je vais encore pas vous lire ce dossier. Allez, ça va, on accélère. L'exercice physique, une thérapie à rembourser. Regardez, rien que ce visuel-là, regardez. Les bénéfices multiples sur l'organisme du sport. Le sport, c'est moins 30% de risque de dépression. C'est moins 58% de risque de diabète type 2. C'est moins 25% de risque de cancer du côlon. C'est moins 40% de risque de récidive de ce même cancer. C'est moins 30 à moins 50% de risque d'hypertension artérielle. C'est moins 25 à moins 30% de risque de cancer du sein. C'est moins 40 à 60% de risque de récidive. C'est moins 25% de risque d'AVC. C'est une prévention de l'ostéoporose. Voilà. Le sport, quelqu'un me dit, mais le sport, quel sport? Ben le sport, l'activité physique, voilà. Quelle fréquence, quelle durée? Ben un petit peu tous les jours. Voilà. Ici, vous avez même des précisions. Ah, vous voulez toutes les infos, c'est fou ça. Un jeune enfant, il faudrait idéalement de 1 à 5 ans qu'il bouge, qu'il ait une activité physique au moins 3 heures par jour. Un enfant, un ado de 6 à 17 ans, au moins 1 heure par jour. On n'y est pas. Le sport à l'école en France, ça ne va pas du tout. Un adulte, un senior, c'est au moins 30 minutes par jour. Marche rapide. Petit peu d'escalier, petit peu de course à pied, petit peu de vélo. Voilà, c'est ça. Hein. Là, on parle beaucoup plus d'activité physique que de sport. Hein. On n'est pas obligé de faire un marathon tous les matins, vous avez bien compris quoi. C'est dans Le Monde, pour ceux qui cherchent, c'est dans le cahier santé du Monde daté de mercredi. Après une prescription médicale et un bilan médico-sportif, les patients ont donc accès à Strasbourg, vous l'avez vu, dans la région de Strasbourg, à 12 séances gratuites de pratique sur 3 mois. Hein, ce n'est pas le remboursement du sport toute la vie pour les gens qui ont des petites soucis de santé. C'est une incitation justement à se mettre au sport et après aux gens un petit peu de se prendre en charge, quoi. Alors, le constat des scientifiques et des médecins qui poussent pour que les Français se mettent à bouger plus, c'est que, à l'échelle de notre pays, le fardeau des maladies chroniques ne cesse de s'alourdir. 21 millions de personnes seraient concernées aujourd'hui par des maladies chroniques en France, avec un coût pour la collectivité, pour l'assurance maladie, de 86 milliards d'euros. 61% des dépenses de santé. L'activité physique représente donc un formidable levier de prévention des maladies chroniques. Voilà. Et vous l'avez bien compris aussi, eh bien, d'économie pour la collectivité, en fait. Parce que toutes les affections, toutes les maladies que vous n'allez pas avoir ou vous allez réduire par l'activité physique, par le sport, eh bien, c'est ça aussi qui va représenter des économies pour la collectivité. Cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, dépression, les bénéfices sont prouvés, c'est scientifique. Navado, merci pour le soutien, merci beaucoup. Florival, merci pour ce prime. En prévention, en traitement aussi. Ainsi, chez les patients atteints de cancer, bouger diminue sensiblement la fatigue, les effets indésirables des médicaments. Cela peut réduire aussi de 40 à 60% le risque de récidive d'un cancer du sein. Pour l'heure, toutefois, le constat est inquiétant. En France, comme dans de nombreux pays, la population est insuffisamment active et trop sédentaire, passant trop de temps assise ou allongée, en dehors du sommeil, trop de temps dans le siège du streamer, trop de temps dans le siège du viewer, trop de temps dans le siège du gamer. Ça, c'est moi qui rajoute, bien sûr, juste exprès pour vous énerver. Le manque d'activité physique et de sédentarité sont deux risques indépendants. Blablabla. Selon les données reprises par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, 47% des femmes et 29% des hommes sont physiquement inactifs en France. Et le temps de sédentarité va croissant dans toutes les tranches d'âge. Les adultes passent en moyenne 12 heures par jour assis les jours travaillés et 9 heures les jours non travaillés. Il y a tous les ingrédients ici d'une bombe à retardement sanitaire. Là, c'est un peu flippant. On va arriver à un tsunami de malades chroniques, non pas à 50-60 ans, mais dans la trentaine. Redoute le cardiologue de sport François Carré, qui alerte depuis des années sur ce sujet. Donc là, je vais à l'essentiel du dossier. Donc je vous le dis en suspens, l'éventuelle prise en charge financière de l'APA dont je vous parlais tout à l'heure au niveau national et pas seulement au niveau de la ville de Strasbourg, voilà, avec un parcours de santé qui serait donc gratuit, remboursé pendant 3 mois, voilà, pour, on estime, 7 millions de personnes qui sont actuellement touchées par certaines pathologies. Voilà. La balle est dans le camp du gouvernement, évidemment ça va coûter des sous. Reste à savoir ce qui sera réellement remboursé, pour qui, où sera mis le curseur. Voilà. Je reviens à Strasbourg. Sur le plan médical, le modèle strasbourgeois a fait ses preuves. La consommation de soins de ville, quand on va chez le généraliste, quoi, à Strasbourg, a baissé de 35% au bout de 18 mois d'accompagnement, avec notamment un moindre recours aux médicaments, alors qu'elle a augmenté de 12% dans le groupe témoin qui ne faisait pas de sport. C'est beau, non ?
Quelle heure il est ?
Oh là, faut que je file. J'ai mon taxi qui m'emmène là, maintenant, tout de suite, à mon tournage très, très secret, avec la crème de la crème des streamers, des youtubeurs français. Je ne peux pas vous dire avec qui, voilà. Je vous abandonne. Évidemment, on fait même pas d'horoscope. Je suis à la rue. Décidé. Voilà. Mais en revanche, on va quand même faire un raid parce que c'est important d'aller soutenir les autres. Je vous mets là, tout de suite, maintenant, 2 minutes de musique. Voilà. Et dans 2 minutes, on raid tous ensemble. Et puis, je vous retrouve après ce soir dans l'hebdo Étienne avec tous nos amis. Et on va se régaler en revenant sur l'actualité de la semaine. Je vous mets 2 minutes de musique. Et on raid dans un instant. A tout de suite. On va où sinon ? On raid dans 30 secondes, j'ai trouvé, c'est formidable. On raid dans 10 secondes. Ah. C'est parti. Je suis content parce qu'il y a 2 jours, j'ai voulu faire un raid vers cette streameuse et en fait, au dernier moment, on m'a proposé un autre choix qui m'a tenté aussi et je m'en voulais un petit peu. Cette streameuse est en live actuellement. Il s'agit de... Où est-ce que je l'ai mise ? Le nom de la chaîne, pour ceux qui se perdent, c'est Utile Futile. Utile Futile tout attaché, je lance le raid, 211 viewers sur la chaîne d'Utile Futile qui me semble dégager de très jolies ondes, ça a l'air très très sympa, je l'ai déjà écouté quelques minutes là, il y a quelques jours. Le raid est en train de charger, je vous souhaite une belle journée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, ce sera encore mieux. On se retrouve ce soir à 20h pour l'Hebdo Étienne avec Arnaud de Samer, avec Valérie Damido, avec Thomas Hill, avec Defon Intelligence. On va parler notamment d'IA, mais pas seulement. C'est parti pour le raid. À ce soir et merci pour ce matin. Je me suis régalé.